Bonjour et bienvenue sur Gameblog, votre rendez-vous hebdomadaire avec le podcast de la rédaction. Et oui, aujourd'hui, podcast 98, un podcast fort sympathique, vous allez voir, puisqu'il est dédié aux femmes, à ces joueuses qui nous font rêver, manette en main ou pas. Eh bien, on va tout savoir un peu sur les héroïnes, les grandes héroïnes du jeu vidéo. Il y en a tellement, hein, qu'il s'agisse de Peach, la très évanescente Peach, ou la très fantomatique Zelda, ou des femmes un peu plus fortes, comme Samus Aran, héroïne de Metroid. Mais aussi, nous allons parler de la place des joueuses dans le jeu vidéo aujourd'hui. Et pour ça, eh bien, nous avons un invité, que dis-je, une invitée de choix, de luxe, de classe. Il s'agit de Caroline Speller, de Pushtart.tv.
C'est ça.
Caroline, comment vas-tu?
Bonjour à tous, bonjour Julien.
Ça me fait plaisir que tu sois là pour nous.
Écoute, hein, c'est un petit rendez-vous sympathique, je ne pouvais pas le manquer.
Écoute, ça nous fait plaisir de t'accueillir autour et que tu le vois donc de cette table à repasser si extraordinaire.
Arrête, j'ai déjà le cœur qui bat.
J'imagine bien. Alors,
on va vous laisser, si vous voulez. Hein. Okay, on va laisser la bande tourner.
Jabba-dabba.
Cela dit, on va faire
l'audience. Tu ne seras pas seule, Caroline. Tu seras accompagnée d'un deuxième invité. Lui est moins féminin, il est même gorgé de testostérone. Il s'appelle Christophe Delpierre. Vous le connaissez sous le nom de Chris Fighter, c'est notre Chris à nous. Comment ça va, Chrisou?
Très bien, monsieur Gollum.
Oh, je vois que tu y vas, très bien. Alors si nous avons invité Chris, c'est aussi pour ta connaissance des femmes dans le jeu vidéo, des femmes tout court aussi j'ai envie de dire, mais surtout d'une, et que dis-je, la plus grande femme du jeu vidéo, Lara Croft. Tu nous en parleras tout à l'heure, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses en 96 lors de l'apparition de cette femme, ô combien importante dans l'histoire du jeu vidéo.
Oui, j'ai eu une aventure avec elle assez longue.
Voilà, tu nous raconteras ça plus en profondeur, j'ai envie de dire, dans les minutes à venir. Et puis Raon, Caf, Angel, Julo, ils sont toutes là, tous là. Voilà. Je vous ai dit, c'est un podcast féminin.
En fait, c'est moi l'homme de la soirée.
C'est un lapsus.
Révélateur.
Révélateur.
Ça fait deux lapsus.
Oui, c'est trop, très dur. Allez, c'est parti, podcast 98, les femmes et le jeu vidéo, c'est parti. On va donc découper ça en deux parties, comme je vous le disais. Tout d'abord, les grandes héroïnes de jeux vidéo, et ensuite la place des joueuses. On commence tout de suite avec ces femmes qui ont fait fantasmer, rêver ou pas, les joueurs, il y a quelques années. On va commencer avec l'une des tout premières, c'était en 1981, dans une section que nous avons appelé les héroïnes passives, les héroïnes récompenses, les nanas qui ne servaient à rien à l'époque.
Les soumises.
C'est un peu l'idée. Et donc, on est avec Donkey Kong avec
barré.
Une femme qui s'appelait Pauline. De quoi s'agissait-il? Qu'est-ce qu'elle voulait dire, Raon?
J'en ai aucune idée.
Elle était prisonnière, laisse-moi deviner.
Caf.
S'il y avait une nana à l'époque, elle était forcément prisonnière, il fallait aller la délivrer.
Eh bah, tout simplement, voilà. Chris, je crois que ça reprend un petit peu le en 1933, King Kong.
Je ne suis pas si vieux. Il faut se dire qu'au tout début, c'était l'image de la femme objet, tout simplement. Mm-hmm. Voilà. La récompense, c'était délivrer la fille, comme dans les films, enfin certains romans aussi. Bon, c'était la récompense du joueur et du héros.
C'était un peu le Saint Graal, en fait.
Caro.
Exact. Ouais.
Finalement, c'est donc pas mal.
Oui, non, heureusement qu'il y a eu l'évolution de la femme un petit peu quand même, hein, entre-temps.
Clairement, justement, on va vite les faire défiler, ces femmes passives héroïnes récompenses de l'époque. Donc en 85, on continue avec Nintendo, hein, qui aimait bien ce genre de personnage, avec donc Super Mario et Peach. Caf.
Moi, il y en avait une en 83-84. Ouais. Molly, première synthèse vocale sur Vectrex. Il fallait la sauver dans un jeu d'échelle avec des petites plateformes et tout. Et c'était la première fois que tu entendais le nom de la nana. Elle avait un vrai nom, elle était là.
Je m'appelle Molly.
C'était pour rien.
T'avais envie de lui mettre des baffes, en fait.
Ouais, non, fallait la sauver quand même, sinon tu perdais. Hein, mais bon, voilà, la femme objet, une autre.
Une autre, voilà. Donc, une fois de plus, 85, pas Peach, hein, une grande héroïne du jeu vidéo, mine de rien, mais qui n'a jamais servi à rien, à part dans Mario 2, où on pouvait l'incarner. Mais enfin, c'est vraiment la seule fois. Toutes les autres fois, c'est « Viens me sauver, Mario oh, !»
Mario Kart, ouais.
Dans Mario Kart,
et
aussi.
Et elle a eu son petit jeu à elle aussi, sur DS.
Ah, mais bien plus tard, oui, on viendra de ça. Là, pour l'instant,
on est
en 85.
Super Mario,
pour l'instant, elle sert à rien.
Ah non, mais attendez, les gars, on est en 85. N'allez pas trop vite. 85, à l'époque, c'était vraiment...
C'était sympa, elle pouvait faire un parachute avec sa petite robe.
C'est vrai, mais pas en 85. Un petit peu plus tard, dans Super Mario 2. Voilà, Angel.
Et globalement, il y avait toutes les femmes récompenses dans les beat'em up. Dans les beat'em all.
Oui, mais... Attends, tu penses à Double Dragon, là, c'est ça hein?
Non, mais Double Dragon ou Final Fight, un peu tous, mais Double Dragon plus particulièrement, oui. Où là, c'était vraiment...
Bah, les frangins qui se battaient pour la fille, quoi.
Ouais,
la fin, il fallait se mettre sur la gueule, quand même.
La fin la plus fantastique du jeu vidéo.
Voilà. On continue avec un début, le changement, un petit peu, ou pas, et bien pas du tout. Nintendo, toujours la Sainte Trinité... un héros, un méchant et une femme objet, et ben avec Zelda, princesse Zelda, la nana qu'il fallait, une fois de plus, la récompense, aller sauver Caro.
Et moi, j'ai une question d'ailleurs à ce sujet. Oui. Quand même, c'est quand même vous que ça touchait quand même à l'époque, hein, sans vieux jeu de mots, ça. D'accord. Savoir qu'est-ce que ça vous faisait en fait d'avoir la femme objet en récompense, parce qu'en soi,
bonne
là,
question,
c'est plutôt à vous de répondre qu'à moi.
À Mario 3, je me disais qu'il était quand même vraiment conne de se faire capturer à chaque fois.
Moi, à titre personnel, en parlant de Mario, justement, je me suis toujours dit que visiblement, il était pédé. Parce que jamais, vraiment, à part des tout petits bisous vite fait et encore, c'était une piètre récompense. Il n'avait pas l'air d'y prendre beaucoup de plaisir à la sauver, finalement, Peach.
Ouais, et puis, après, Bowser était beaucoup plus excité de le...
Ouais, donc oui, c'est un peu l'idée. Donc je me posais des questions un petit peu sur son orientation sexuelle, pour tout dire.
J'ai jamais pensé à ça. Je crois que j'ai jamais fini un jeu pour
Mario,
une
Luigi,
princesse à l'époque.
Je vous rappelle quand même que sur la jaquette de Super Mario Galaxy, il y a quelques lettres ou sur lesquelles il y a très précisément une étoile. Et si vous les reliez, il y a marqué « You are Mr. Gay ». Est-ce un symbole? Est-ce un signe? Et c'est totalement véridique.
J'en apprends tous les jours.
Non, on parlait des femmes objets, puis il y avait ce fameux passage de « Excuse-moi, je saute dans le temps, mais pas trop loin non plus, mais Zelda sur Super NES ». N'est-ce pas? En fait, on commençait l'aventure par délivrer la princesse. C'était très déroutant à l'époque. Parce que tu te disais, merde, j'ai fini le jeu.
Oui, c'est ça.
Et t'avais fait un quart d'heure de jeu ou un peu plus, je ne me rappelle plus très bien. Mais enfin voilà, c'était assez déroutant à l'époque. Et justement, parce que justement, on avait cette habitude de la femme objet.
Mais rappelle-toi, Julo, il fallait quand même la délivrer encore 30 heures plus tard.
Certes.
Parce que généralement, l'aventure pas finaude. Elle se refaisait choper à chaque fois quand même.
Moi, c'est le truc qui m'énerve.
Ça trahit quelque chose.
C'est. Caro, attends.
Le syndrome princesse, on a tout envie de se faire délivrer par un prince, un chevalier.
C'est vrai.
Je suis désolée, on en rêve.
C'est quand même un peu conne.
C'était Angel, ça ne regarde que lui. Hein. Ça n'engage pas les propos de Gameblog.fr. Allez, on continue. Là, on sort de la galaxie Nintendo, mais on va du côté de chez Capcom, et puis on va voir que dans un jeu comme très réputé, hein, très célèbre, comme Ghost and Goblin, en 85, et bien là, une fois de plus, hein, le syndrome princesse, avec la princesse Prin, et je crois que Chris, là, tu vas nous resituer un petit peu les choses. La première fois, on la découvrait, c'était princier, j'ai envie de dire.
Si je me souviens bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a un pique-nique avec le roi, et elle se fait enlever par des gargouilles ou des démons, enfin, je sais plus. Et voilà, après, tu pars la délivrer.
Un pique-nique bourgeois, forcément.
L'avantage, c'est que tu peux la délivrer en calbar, par contre.
Exactement.
Tu gagnes un peu d'avance, quoi.
On peut dire ça, ouais.
Bon, en tout cas, ce qu'on peut voir à l'énoncé rapide, hein, de ces quelques héroïnes, alors c'est difficile de dire qu'elles étaient héroïnes, mais enfin, en tout cas, présence féminine dans les jeux d'il y a maintenant quasiment une trentaine d'années, c'est que globalement, Caro, je pense que tu seras d'accord, c'était pas quand même glorieux pour la gente féminine, la manière dont on s'était traité.
Bah non, tu l'as bien très bien résumé, la femme objet, c'était pas. Non, on n'était pas très glorieux, on n'était pas des femmes fortes encore à l'époque, et on n'était pas émancipées du tout.
Du tout. Angel, tu veux préciser quelque chose?
Non, mais une mention spéciale aussi aux ennemis de Double Dragon, les femmes. C'était des putes avec des fouets.
Dans Final Fight aussi.
Voilà. C'était
Et pourtant, on verra dans quelques instants que c'est un peu par la baston aussi que les femmes ont obtenu leur premier galon d'émancipation. On va y revenir dans quelques instants. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne un petit peu avant, parce que quelque chose qui passait un petit peu inaperçu parmi les joueurs. Mais pourtant, en 1981, il y avait finalement le premier personnage féminin, je dirais pas une femme, mais personnage féminin, totalement à l'égal des hommes. Et Chris, il s'agissait de Miss Pac-Man.
Ouais, alors personne n'y pense forcément, mais Miss Pac-Man, c'était à mon avis, hein, il faudrait faire des recherches, mais je crois que c'était le premier perso féminin qui avait exactement les mêmes capacités que son alter ego masculin. Donc voilà, c'est moi je trouve ça assez intéressant. 80, j'étais sûr que c'était
tout
en
à
80.
Fait.
Bon voilà, c'est sorti en 80. Donc c'est super vieux, c'est super intéressant. Voilà, c'est l'émancipation avant l'heure avec une petite boule jaune. Voilà, c'est intéressant, c'est rigolo.
Mais toujours un peu nunuche parce qu'elle a quand même son ruban.
C'est vrai.
C'est une fille.
Il fallait
c'est
la
pas
reconnaître.
Nuche,
il fallait la reconnaître aussi.
Parce qu'à la fois une boule jaune. Hein,
puis graphiquement, elle était un peu embêtée pour faire une fille, un garçon là quand même. Hein.
Exactement. Allez, on parle de personnages à l'égal des hommes. 86, allez, alléluia, j'ai envie de dire, pour la toute première fois, Metroid. Eh bien oui, Nintendo arrive enfin et nous montre qu'une femme peut être à l'égal des hommes avec ce jeu, donc Metroid, jeu d'action. Mais ce qui est quand même hallucinant et paradoxal et intéressant aussi à voir, c'est qu'on l'apprenait qu'à la toute fin du jeu, dans le générique de fin, Julo, est-ce que c'est pas une manière un peu de dissimuler, enfin d'y aller sans oser vraiment, en fait?
Exactement. Et on se souvient aussi, notamment, c'est un peu plus tard, mais exactement de la même manière, dans King of Fighters, C'était dans King of Fighters. Non, c'était dans Art of Fighting
le premier.
Art of Fighting, King, que tu penses être un mec. Une fois que tu l'as battu à la fin du combat.
Seulement avec une furie. Si tu la bats avec une furie au deuxième round, effectivement, son costume se déchire et tu t'aperçois qu'elle a un soutien-gorge.
Voilà.
Et que c'est donc une femme, ouais.
Donc, même principe, en fait, on cachait la présence féminine jusqu'au dernier moment, quoi.
Il y avait le Mother Brain aussi, non?
Oui,
ouais. Enfin bon, là, c'est un peu décrépit.
Là, tu vas loin, là, quand même.
Caro veut réagir.
Oui, il y avait un petit mode spécial, d'ailleurs, quand tu finissais le jeu. Je crois que c'était le 2. Tu finissais le jeu en hard ou en 5 heures à la fin. Tu pouvais débloquer des petites séquences de Samus Aran en bikini.
Sympathique.
Oui,
sympathique.
Et ce qui est très drôle aussi à l'époque, c'est que à l'époque de Metroid et Samus Aran, c'est elle qui a lancé une rumeur sur Boba Fett. Du coup, on s'était dit à l'époque que Boba Fett était une femme, et on s'est même tous posé la question. Donc les gros fans, il y a eu.
Alors attends, reprécise-nous un petit peu pour
parce qu'à l'époque il n'avait jamais parlé, il n'avait pas
Boba
été.
Fett,
donc on
resitue
Boba Fett, c'est dans Star Wars, c'est le chasseur de primes.
Un chasseur de primes, pareil. On savait pas si c'était un homme, une femme. Il y a eu des grosses discussions dans les forums. C'était pas vraiment ça à l'époque. Non, plutôt dans les réunions.
Chez les gros geeks, quoi.
C'est
voilà.
Ça. Et justement, Samus Aran avait levé une rumeur. On pensait que peut-être que Boba Fett était une femme. Bon, maintenant, après, bien des années après, on s'est aperçu que non. Hein.
Mais on aurait aimé ne jamais savoir qu'il n'y ait jamais la suite et qu'on ne le sache donc jamais. Mais effectivement, donc c'est parti de Metroid. Ça, c'est intéressant. Une femme forte sous une armure comme ça, effectivement, ça pouvait rappeler un petit peu. Et blonde.
Et beaucoup de gens l'ont appris bien des années après. Hein.
Ah, bah, bien sûr. Hein. C'est pas, pour la plupart, c'est pas en 86
pas
que.
J'avoue.
Voilà,
c'est Smash Bros qui a fait aussi qu'elle est devenue, elle s'est démocratisée auprès de tout le monde parce que là on la jouait avec sa petite suit bleue toute mimi, toute jolie.
Et j'ai envie de dire, Caro, que tu me tends une perche incroyable puisque tu me parles de Super Smash Bros, donc un jeu de combat, un jeu de baston finalement, même s'il est un petit peu foufou, mais ça reste de l'action où on se tape. Et justement, c'est les jeux de combat, quelque part, on trouve un petit peu ici à Gameblog, qui ont apporté un peu l'émancipation, ça a l'air paradoxal de le dire, mais on s'est rendu compte qu'en fait, c'est en 91, l'arrivée avec Street Fighter 2 de la première grande combattante, qui reste quand même encore aujourd'hui dans l'esprit de millions et millions de joueurs, il s'agit de Chun-Li. Et puis derrière, elle a donné naissance à des ribambelles d'héroïnes de baston. Chris, je crois que je vais te laisser en parler parce que toi, tu es un peu un spécialiste du combat d'esthète.
Oui, c'était ma décennie combat. Je me suis tapé à peu près tous les jeux de baston qui sortaient à cette époque. Et effectivement, Chun-Li, j'ai botté bien des culs avec. Vous en savez quelque chose ?
Oh là là.
Et Chun-Li, c'est vraiment un super personnage. Le chara-design était super bien trouvé à l'époque.
Surtout la fin, à chaque fois que tu gagnais, qu'elle faisait. C'était horrible.
Mais c'est ça, c'est quand même elle qui a démocratisé le Yatta.
C'était fantastique. Le youpi japonais, quoi.
Mais surtout, elle était forte, quoi. C'était pas un personnage un peu de deuxième zone, etc. C'était vraiment un super personnage de Street.
Non, elle était carrément balèze à l'époque de Street 2. Il n'y a pas de souci.
Street 3, c'était pire encore.
Street 2 reste emblématique. C'est quand même le jeu qui fait qu'elle a été découverte. Effectivement, après,
avec toute la série,
on a eu les Samurai Shodown, Nakoruru, Charlotte, Fatal Fury, Mai et Blue Mary. On a eu
King dont on parlait tout à l'heure.
Voilà, King dans les King of Fighters.
Ça a commencé dans Art of Fighting et puis après effectivement King of Fighters.
Elles ont eu moins d'aura, mais elles ont été importantes effectivement.
Ah, une qui a eu beaucoup d'aura, c'était Mai Shiranui aussi.
Et qui ça?
Mai Shiranui.
Dans qui, dans quoi?
Qui est la nana de Terry Bogard dans Fatal Fury.
Très bien. Voilà. Et dans
Mortal Kombat. Il y en a eu pas mal des gonzesses.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, mais dans Mortal, tu t'en souviens moins. Son patron,
Sonya Blade, elle était pas très classe. mais elle était là.
En même temps, même les mecs étaient pas très classe quand même dans Mortal Kombat.
Non,
c'est une série pas très classe.
Tu peux pas dire ça de Goro.
Ou Johnny Cage. Quelle horreur.
Caro. Les femmes pas trop classe depuis le début nous donnent que des exemples de femmes pas trop classe. C'est comme
ça. Enfin, Mai, tu t'en souviens, mais pas pour des bonnes raisons. Tu t'en souviens parce qu'elle a les seins qui bougent quand elle gagne, tu vois. Mais
elle avait une super attaque de feu.
C'est vrai.
Attends, elle était super relou.
Oui, non,
surtout quand tu la jouais.
Non, c'est vrai que c'était un bon perso, mais bon, tu t'en souviens. Je me souviens plus. Elle disait un truc à la fin, Ninpon. Enfin, je sais plus quoi.
Elle jouait avec son éventail.
Et quand elle baissait son éventail, les seins bougeaient. Mais c'est pour ça qu'on s'en souvient.
Bien sûr. J'avais le gif animé. Ah,
alors là, vous ne le voyez pas, mais Caro, avec un grand sourire, fait oui, c'est vrai. Et la caisse, elle dos de ligne du chef, j'ai envie de dire.
C'est le Dodoline dessin qui me fait penser.
Très bien. Et effectivement, il y en a eu tant d'autres. Hein, dans les Soul Calibur, il y a eu Taki, Sophitia. Dans les Dead or Alive, il y a Ayame, Tina.
Ivy.
Ivy, oui, yes, bien sûr. Ivy.
Angel, yes. elle a un petit coup de fouet, ça.
Il répond pas, il voilà. Esquive.
Dans les streets, il y a aussi Camille, Sakura. Dans les tekels, il y a Nina Williams, June Kazama.
Ouais, elle est moi. Et moi, je suis désolé, mais là, je veux faire une spéciale dédicace à Marie Ivanskaya de Tobal.
Oui, putain, mais c'est elle dont je cherchais le nom tout à l'heure, la grosse russe.
Parce que personne ne jouait avec.
Mais
moi,
non.
Moi, je m'étais entraîné comme un porc avec. Et comme personne connaissait ses attaques, j'arrivais à tuer tout le monde.
Ouais. Je ne raconterai pas l'histoire de Tobal 2 entre toi et moi, je l'ai déjà fait. C'est bon.
Si, tu peux.
Non, c'est bon.
En tout cas, on découvrira avec là ces quelques exemples très concrets que dans les jeux de combat, bah, les femmes étaient très très bien représentées et à chaque fois avec un bon caractère design et des bons coups. Enfin, elles étaient importantes.
La King, elle assurait en plus.
Des bons coups. Donc voilà, c'était important les jeux de combat. Non mais tout n'a pas un deuxième degré, il faut arrêter messieurs. Bon, autre exception notable, les jeux de rôle, essentiellement japonais, il faut bien l'avouer, avec dans les séries principales que sont les Final Fantasy, bah, des très grands noms, hein. On se souvient de Terra dans Final Fantasy VI, de Aerys, nous ne se souvient pas d'Aerys, hein, ce personnage mythique de Final Fantasy
VII. Tifa
aussi, Rinoa. Pour d'autres attributs. Rinoa
souvent
dans
souvent des personnages
Final
secondaires
8.
Quand même en fait. Parce que le
héros bah, Terra de... dans Final Fantasy VI, oui. Est sacrément essentiel. Mais et dans Aerys aussi.
Oui, elle est essentielle à l'histoire, mais le chef, entre guillemets, du groupe, ça reste Cloud quand même. Celui que tu joues vraiment et qui t'incarne le plus.
C'est certain. Caro ouais, n'est peut-être pas d'accord.
Sans Aerys, FF7, je pense, n'aurait pas eu du tout la même dimension. Parce
sans
que Aerys,
c'est
Aerys
sans
apporte quand même quelque chose d'exceptionnel dans le jeu vidéo, et peut-être même la première fois. C'est une femme se sacrifie. Enfin, c'est vraiment le sentiment amoureux. Bon, après, on sait que les relations amoureuses, Jap, c'est toujours hyper distant et on se touche pas, mais on sait, mais machin. Mais Aerys apporte vraiment une toute autre dimension et apporte vraiment du sentiment. Sans son sacrifice, je pense pas que FF16 aurait pris autant d'importance.
Ah, je suis assez d'accord. Et quelque chose de très notable sur Final Fantasy VI et Final Fantasy VII, c'est que l'ouverture des deux jeux se fait sur les femmes. Aerys et Terra sont.
Des fleurs dans FF7.
Voilà, ouais. Au début, il y a un gros zoom sur elle. Et Terra, au début, bah, on est dans son espèce d'exosquelette et on avance avec elle et c'est vraiment des femmes fortes, Julo.
Tout comme dans Shenmue, d'ailleurs.
Bien sûr, voilà. La minute essentielle.
Ouverture sur Shenfa, le Saint Graal de Shenmue 2. Tu la vois pas du tout, tu la vois qu'en flashback dans le premier Shenmue, et puis tu finis par la rencontrer. Et t'as toute cette phase de jeu dans Shenmue 2, pardonnez-moi de le répéter, mais où tu, en fait, tout est basé sur les dialogues avec elle. Et t'es tellement heureux
montagne.
De lui avoir couru après, d'avoir essayé de comprendre qui était cette nana, que quand tu la rencontres, tu finis par vivre une phase de jeu qui dure, je sais pas, 20 minutes, où tu ne fais que parler avec elle. Et ça, c'est génial.
Vous aurez compris en tout cas que pour Julo, Shenfa, c'est le Saint Graal. CAF.
Je voulais préciser quand même, parce qu'il n'y a pas que les consoles dans la vie, mais vous oubliez quand même tous les RPG sur PC pendant toutes les années 80, où il y a des femmes dans tous les jeux, puisque c'est de l'heroic fantasy. L'heroic fantasy, ça veut dire qu'il y a une magicienne en string quelque part. Tu ne peux pas faire un jeu de rôle sans avoir une magicienne en soutif. Tu as les mecs en armure, avec des trucs, des cotes de mailles et tout. La magicienne, elle est à poil, il n'y a pas de problème. Elle est protégée par des sorts spéciaux, tu ne sais pas pourquoi. Mais
si, parce que la magicienne, le magicien ne peut pas avoir d'armure, sinon il ne peut pas lancer ses sorts.
Exactement, mais comment c'était pratique pour le design des filles. Alors évidemment, elles ont pas de nom à citer, mais tous les jeux de rôle de l'époque avaient sur la couverture, sur la jaquette, une nana que tu retrouvais dans le jeu.
Barbarian.
Oui, Barbarian, évidemment. Ouais, elle sert à rien non plus, mais elle est sur la jaquette.
La jaquette était intéressante.
C'est que la pub était intéressante, en fait. Donc voilà, il y a
les femmes. Il y avait Golden Axe aussi, où il y avait une guerrière, mine de rien.
Exact, Golden Axe.
Ouais.
Exact.
Il y avait un abo. Une meuf et un guerrier.
Voilà.
Le triumvirat absolu est parfait. Mais justement, on parlait de l'exception RPG. Il y a quand même, souvenons-nous, hein, en 99, il y a une héroïne qui avait toute l'importance, puisque c'était la star du jeu. Hein, elle portait tout le jeu, c'est Kudelka. Où là, c'est vraiment l'héroïne solo. Elle est arrivée et là, elle s'imposait de toute sa classe ou pas. Hein, pour ceux qui se souviennent du jeu, c'est quand même un jeu assez particulier, mais qui était très prenant, avec une super belle ambiance et qui était quand même développé par monsieur Kikuta, qui était le musicien, le compositeur des musiques de Secret of Mana, et qui donc restera à jamais dans la mémoire de nombre de joueurs.
On pourrait citer Valkyrie Profile aussi, tiens.
Bien sûr, Valkyrie Profile, c'est une Valkyrie, c'est une femme. Et
une femme forte, donc.
Femme forcément. Forte, tout à fait.
Une guerrière d'Odin, donc forcément forte.
Et Angel. Dans le jeu d'aventure à l'ancienne, le point and click, dans le Monkey Island, il y avait Elaine, qui avait une place super importante de l'aventure, et qui d'ailleurs était carrément à peu près 10 fois plus intelligente que le héros qui lui
est un abruti fini,
qui lui est très très stupide. Heureusement qu'elle était là pour le prendre pour un con, d'ailleurs. Voilà.
Donc finalement, le RPG a donné une autre dimension aux femmes et pardon. Donc du coup, oui. Donc oui, je pense que du coup, ça a apporté une autre dimension. Le RPG a vraiment apporté une autre dimension, c'est-à-dire on pouvait être un petit mecton comme dans les jeux de baston, mais à la fois on avait une autre dimension, c'est-à-dire qu'on peut apporter du sentiment et de l'intelligence, comme disait Angel. Finalement, on ne fait pas que fouetter.
C'est vrai, c'est important. Et là, j'ai envie d'être inspiré et de poser la question de ce podcast. Les femmes ont-elles l'obligation réelle d'être sexy pour être présentes dans un jeu vidéo? Est-ce que les nanas normales, finalement, ont vraiment leur place? Les nanas, entre guillemets, un peu plus banales, sans des proéminences incroyables, puisqu'on le voit, hein, globalement, dans quasiment tous les jeux, elles ont toujours été surbombasses, avec des seins qui ressemblent plus à des obus. Et ça va nous rapprocher de plus en plus de 96 avec l'arrivée de Lara Croft. Mais juste avant ça, justement, essayons de voir, est-ce qu'on connaît des femmes dans le jeu vidéo, entre guillemets, normales?
Celle que citait Chris tout à l'heure dans Tobal 2 était peut-être un des premiers exemples qui me vient à l'esprit, effectivement.
Un tromblon russe.
Donc, elle était horrible, effectivement.
Et sortie de ce personnage-là?
Bah, écoute, pas trop. Hein. Bah,
un peu plus tard, si, Jill Valentine, c'est pas une bombe sexuelle de la mort. Hein, Chris Redfield, c'est pas non plus. Enfin, elles font plus Girl Next Door.
Mais là, on est en 96.
Elle a quand même pas trop de cellulite. Hein. Je suis désolé.
Non, mais avant. Oui, t'es vérifié.
Non, parce que mine de rien, il y a quand même. Par contre, chez les héros masculins, dans Final Fight, l'espèce de gros mec, les Zangief, etc. Enfin, il y a plein de personnages.
Bah, je reprends l'exemple de Guybrush qui est quand même sacré truffe.
Ouais, voilà. Enfin, c'est pas que des mannequins. Alors que par contre, les nanas dans le jeu vidéo à cette époque-là, c'était que des mannequins, très
mais
honnêtement.
Mais c'est venu super tard en fait, les nanas à peu près normales. Parce que finalement,
j'attends que vous me laissiez en citer quelques-unes.
Vous auriez envie de jouer des tromblons.
Mais c'est la question que j'ai envie de poser, justement. Justement, toi, est-ce que ça te choque ou pas, déjà, en tant que nana, de voir que il y a une vraie différence qui est faite entre les héros masculins et les héros féminins?
C'est comme si tu disais qu'aujourd'hui ça me choque de voir des mannequins à toutes les pages des magazines féminins, donc
c'est pareil pour les mecs en publicité à l'heure actuelle. T'as que des beaux gosses partout et on joue pas des beaux gosses tout le temps. Tu joues pas des mecs en caleçon avec des barrettes de chocolat, quoi.
Ouais, mais alors à l'époque c'était quand même plus les mecs qui jouaient, d'accord. En soi, le RPG, alors, pour le RPG spécialement, je veux dire, quand t'es une femme, t'as envie de jouer facilement une femme, plus qu'un homme. Et je pense que si vous avez envie de jouer une femme, c'est qu'elle ressemble à quelque chose. Parce que si c'est pas pour dire, hey, regardez, j'ai un 90D, je me balade avec ma grosse épée, ça vous ferait pas triper, je suis désolée. Quoi.
Donc, c'est pas tout à fait. Ça dépend, parce que bon, effectivement, donc toi, Julien, tu nous demandais tout à l'heure si on pouvait citer des héroïnes à peu près
et
normales.
C'est compliqué.
Il y en a pas des masses, mais on peut citer Alix dans Half-Life 2, on peut citer BGE.
Alix dans Half-Life 2,
excuse-moi.
Elle ne représente pas. Enfin,
Peut-être t'as l'air de dire ça, genre il faut absolument qu'elle soit forcément laide, quoi.
Mais non, mais c'est pas ça. C'est qu'elle est quand même, elle est pas mise en valeur avec des fringues de la mort et tout.
Mais pas du tout. Voilà, elle est pas
hallucinant. Enfin.
On va dire qu'Alix est dans une moyenne normale.
Mais dans ces cas-là, BGE aussi.
Une autre.
Elle est pas laide, quoi.
Bah, Jade, tu peux pas non plus dire qu'elle est laide. Hein.
Non, elle est pas laide du tout, Jade, mais bon.
Machine dans Metal Gear 2.
Meryl.
Meryl. Elle est très girl next door.
Enfin, il y a quand même une séquence entière où elle est en soutif, elle est en petite culotte. Enfin, en gros, ça tourne autour de ça, quoi, tout constamment.
Non. Tu la joues pas. Enfin,
c'est pas parce qu'elle est à moitié à poil qu'elle est forcément.
Alors forcément, une nana, c'est soit à un moment ou un autre à moitié à poil, soit un mannequin.
Oui,
il y a
mais
toujours
ce rebond sexiste
ou sexuel.
Ça servait le scénario.
c'était bien amené, mais enfin voilà, on en revient toujours à la même chose. La femme dans le jeu vidéo aujourd'hui est quand même traitée toujours avec un prisme très sexuellement orienté, clairement.
Des petits monstres Nintendo.
Sinon, tu peux jouer des trolls dans World of Warcraft, femme. Ça compte ou pas?
Bon, mais ouais.
Ou des zombies féminins.
Non, c'est important
dans,
parce qu'il y en a qui en jouent. Il y a plein de nanas qui jouent des taurens ou des trolls, effectivement, qui sont pas forcément des races qui correspondent à nos standards.
Ça dépend, t'aimes les cornes de comment?
Oh, je te montrerai mon coco.
En tout cas, tu vois, la suite de la question, quelque part, c'est, Caro, est-ce que tu t'es déjà senti proche, on va dire, d'une héroïne de jeu vidéo, comme des mecs peuvent s'identifier à un personnage ou pas? Est-ce que
comme Mario, par exemple.
Comme Mario, ouais. Est-ce qu'il y en a certaines ou dans lesquelles, genre, tu t'as vu avec d'autres copines, etc., que bah, vous, en tant que joueuse, vous disiez « Ah ouais, elle nous ressemble, ou, elle est comme nous, machin. »
Peut-être que vous en foutez aussi.
Je pense qu'on bavait plus sur les mecs du jeu vidéo. Par exemple, on bavait plus sur un Dante ou ce genre de choses. C'est ça. Maintenant, s'il y a peut-être une héroïne que j'ai vraiment bien aimée, c'était dans Parasite Eve. J'ai beaucoup aimé ce perso parce qu'il n'était pas... Elle a quand même été sexy, mais...
Je rappelle que la séquence d'intro de Parasite Eve 2, c'est quand même une douce. Où elle est à poil, hein. Bon.
Oui, mais elle restait quand même malgré tout accessible. Mais non, et je me suis jamais vraiment identifiée à un personnage féminin de jeu vidéo. J'ai plus tendance à moi qui joue au jeu de rôle, j'ai plus tendance à m'identifier à des persos que je vais créer de toutes pièces, plus qu'un personnage de jeu vidéo.
On y reviendra tout à l'heure.
Ouais, on reviendra à ça.
Parce
mais
que c'est assez intéressant par rapport au MMORPG dans la deuxième partie sur la place des joueuses dans le jeu vidéo.
Même dans un RPG offline, moi je suis tenté de te poser la question, tu crées des femmes ou tu crées des mecs?
En priorité, je vais créer des femmes.
D'accord.
Mm-hmm. En priorité.
On reviendra là-dessus.
Ouais, on reviendra là-dessus, c'est intéressant, vous verrez pourquoi ta réponse est assez symbolique. Julo, tu voulais dire quelque chose?
Non, je voulais juste plus soyer sur Aya Brea, parce qu'effectivement, elle était parfaitement normale, cette nana, et c'était ça précisément qui faisait son charme dans ce jeu.
Ouais, vous êtes gentil, elle était parfaitement normale, elle avait les yeux bleus, elle est blonde, parfaite, elle était surgaulée.
Non,
votre caractère de la normalité est quand même très restrictif sur une certaine forme de la population féminine.
Non, c'était pas un ton, mais voilà.
C'était un canon, même, on peut le dire.
Ouais, t'as pas compris, modéliser la cellulite c'est chiant, ok,
je suis d'accord, mais un peu plus de normalité
non, mais voilà,
serait peut-être un peu plus de variété dans les héroïnes serait pas un mal.
Regarde, il y avait bien la polémique, justement t'as raison, la polémique avec Faith dans Mirror's Edge justement où les mecs disaient elle a, pour une japonaise elle a pas, ça plaira
c'était
pas,
les asiatiques,
ça plaira pas aux asiates parce qu'elle est pas assez gaulée. Alors que justement, les développeurs avaient dit, ouais, mais non, nous on voulait justement un truc beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire pas des gros seins,
enfin,
une poitrine plutôt classique, etc. Mais ouais. Regarde, le mec avait refait le design pour expliquer au gars de DICE comment il fallait faire. Tu vois, il lui avait foutu une paire de loches.
Justement, on va revenir là-dessus parce que c'est très intéressant et très important. On va parler maintenant du cas Lara Croft qui, en 96, vraiment a fait tout basculer. Et on reviendra sur ce que disait Angel parce que c'est intéressant, parce qu'on verra que même Lara a connu beaucoup d'évolutions et que ce qu'on a dit là sur la manière dont les femmes étaient perçues dans le jeu vidéo et représentées est en train quand même, depuis quelques temps, c'est très récent, mais de changer un peu. Et justement, avec Faith, on l'a vu, essayer de désexualiser un peu les héroïnes et d'arriver à quelque chose de plus normal. Et même Lara l'a connu, mais d'abord, je vais laisser quand même la parole à Chris qui va nous expliquer un peu tout l'emballement, ce qui s'est passé autour de Lara, un peu sa genèse, comment elle a été créée. Apparemment, il y a des légendes qui diraient qu'à la base, elle ne devait pas avoir des seins aussi énormes, que ce serait une erreur des informaticiens qui seraient tombés dessus, qui auraient fait plus, qu'à la base, ça devait d'ailleurs pas être l'héroïne, mais que ça devait être un mec. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu autour de ce personnage?
Tout ça, c'est vrai. À la base, ça devait être un homme. Les pontes de chez Core Design ou Eidos, non c'était Eidos je pense, qui voulait un homme, il voulait que ce soit un personnage masculin. Toby Gard à l'époque était quand même, il a poussé pour qu'il y ait une fille. Et donc, en même temps, est-ce que c'est une légende ou pas le coup du tiens, on était sous le modèle 3D et puis on a fait 150% au lieu de, et puis elle avait des gros seins, bon ça je sais pas. Le problème, enfin de toute façon dans Tomb Raider 1, il faut bien se rappeler d'une chose, c'est que Lara Croft avait des seins, c'était pas des seins, c'était des
polygones,
c'était des triangles,
ouais.
C'était un triangle en fait, voilà, c'était totalement pointu.
Elle n'avait pas de natte non plus, hein, puisqu'elle ne pouvait pas être modélisée, elle avait une espèce de chignon horrible.
Tout à fait, bravo, je vois que tu es
une coupe au carré.
Un connoisseur. Tu es un connaisseur, bravo. Non, elle avait les seins pointus, elle avait pas de nattes. Bon, bref, voilà. À partir du 2, ça s'est amélioré et effectivement, il y a eu une espèce de surenchère au fil des épisodes. Et bon, on en a parlé aussi à cause de ça. Et ça a été un succès. En fait, le premier Tomb Raider, ça a été un succès inespéré. C'est-à-dire que personne savait que ça allait être. Je me souviens de l'E3 qui s'était passé à l'époque. Voilà, les gens découvraient le jeu, mais Eidos, ça l'avait pas poussé plus que ça, quoi. C'était un jeu comme un autre. Voilà, et ça a explosé. Et forcément, après, ils ont surfé sur la vague. Ah oui. Après, il y a eu les Lara en chair et en os, tous les ans, qui changeaient, etc. etc.
Et puis, ils jouaient même au niveau de la communication, puisqu'ils avaient ouvert une boutique, on pouvait acheter les habits de Lara, où il y avait même des jeux sur lesquels les mentions étaient vraiment dirigées. Genre, un homme a toujours rêvé d'avoir une poupée dans les mains, etc. C'était la pub pour Tomb Raider 2 sur Mac. Enfin,
c'est ce qu'on appelle du merchandising. Et voilà, ils ont surfé au maximum dessus, ouais.
Caf, tu veux réagir?
Faut se rappeler que Tomb Raider, les premiers sur PC, c'était aussi des démos technologiques, c'était parmi les tout premiers jeux accélérés 3D. Donc ça, en fait, ça a fait exploser la licence sur PC parce que c'était des premiers jeux accélérés 3D beaux. Alors là, pour le coup, tu voyais que les seins étaient pointus. Mais
dès qu'ils ont eu plus de polygones, ils les ont mis là.
Il y avait Quake et ça. Et au tout début, il y avait vraiment que ça. On n'avait pas DirectX, machin, c'était librairie 3D. Il fallait que les mecs ils programment spécifiquement pour le jeu. Et ça l'a fait exploser, en tout cas, sur PC. Et ça, c'était vraiment le début de Lara, en tout cas, pour les joueurs avec un clavier et une souris. Tu vois.
Mais c'est vrai que la force aussi de Lara, c'est d'avoir été aussi populaire, même dans les grands médias. Hein. On se rappelle de couverture de Libération. On se rappelle de les films qui sont partis derrière avec Angelina Jolie,
c'est vachement plus tard les films, hein, quand même.
Bien sûr,
sûr. Mais il y a eu un véritable emballement autour de ce phénomène qui a dépassé le... Ouais, avec U2, comme le disait Angel, où elle était présente derrière, en fond, dans les vidéos. Ça a dépassé le cadre du jeu vidéo, quoi.
Ouais, ouais, bah c'est là que tu vois comment une campagne marketing peut être bien gérée. Bon, bah voilà, ils ont réussi leur coup. Ça a été... Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, c'était...
c'était la qualité du jeu ou c'était la femme recherchait.
Non, je pense que c'était plus le personnage, ce qu'elle symbolisait, mm-hmm. que le jeu en lui-même. Parce que, enfin, pour moi, en tout cas, mm-hmm. À partir de Tomb Raider 3, ils ont un peu merdé. Enfin, voilà, hein, je peux le dire maintenant, il y a prescription. Mais Tomb Raider 3, voilà, je crois que c'est celui qui s'est le plus vendu. Et mm-hmm. pour moi, c'est celui qui est le plus dur et le moins grand public. Mm-hmm. Et à partir du 4, ils ont essayé de corriger un petit peu ses défauts. Et ça s'est moins bien vendu, ça a moins marché. C'était un petit peu la pente descendante. Et en même temps, bon, c'est vrai que Core Design, on sait ce qui s'est passé. Hein. Mmh. Ils ont fait des choix de gameplay des non-choix, en fait, on peut dire. Ils n'ont pas réussi à progresser réellement. Après, c'est passé chez Crystal Dynamics, etc., etc. Bon, là, il y a eu un second souffle. Mais non,
c'est marrant, justement, parce que quand c'est passé chez Crystal Dynamics, ils ont commencé à réviser le design de Lara.
Ouais.
Et à la désexualiser petit à petit.
Oui, d'ailleurs, ça a commencé avec Tomb Raider Legend, hein, ouais. où il y a même eu clairement des études qui ont été faites et d'essayer de la désexualiser, comme on dit, un peu, les laisser un peu moins
pour plaire aux femmes, justement, pour qu'elles soient plus accessibles.
Pour plaire aux femmes, oui. Ouais.
Parce que l'air de rien, enfin, moi à l'époque, en tout cas, je sais que je connaissais, j'avais plusieurs amis IES. Mm-hmm. qui s'intéressait au jeu parce que voilà, Lara Croft, elle connaissait Lara Croft. Pour elle, le jeu, c'était Lara Croft, hein, c'était pas Tomb Raider.
Bah justement, ce serait intéressant d'avoir ton avis, Caro, sur Lara. Comment tu la percevais, toi, à l'époque, et avec tes amis qui étaient déjà joueuses?
Franchement, Lara Croft, je m'en fous, quoi. Enfin, c'est ouais. pas... Oui, c'est la première chaîne de garde pixelisée du jeu vidéo. Et je pense que quand tu disais par rapport à son succès, c'est aussi ça qui a fait qu'elle est devenue... ça fait aussi partie des excuses. Parce que quand on titrait dessus, on disait la première femme du jeu vidéo est représentée. Donc, c'était un peu l'excuse qui était prise. Mmh. Donc, c'est ce qui a aussi alimenté toute la campagne marketing. C'est ça aussi qui a fait que... Sinon, franchement, moi, Lara Croft, elle m'a pas touchée.
Mais limite, j'irais plus loin. C'est même, ça te faisait chier de voir comment que cette femme qui prenait tant d'importance dans les médias était finalement qu'une grosse bimbo. Tu te sentais mal représentée. Ça te faisait chier qu'on dise genre ah bah regardez ça va plaire aux filles puisque maintenant il y a une femme.
Exactement la même chose que tout à l'heure. On a l'habitude d'avoir des images de femmes toujours parfaites. Donc en soi que dans le jeu vidéo il y a exactement la même représentation de la femme, ça m'a jamais perturbé plus que ça et ça m'a jamais choqué. Après, ce qui était intéressant, c'était que c'était une femme forte, intelligente, aventurière, qui était capable de prendre sa vie en main. Donc, c'était différent des personnages qu'on avait avant.
C'était pas une neuneu, hein. Ils l'ont toujours vendue comme une nana qui était certes bombasse, mais qui était...
C'était ça qui était intéressant. Et je pense que c'est pour ça, peut-être, que les femmes se sont aussi intéressées à ça. C'est pas la simple bimbo qu'on jouait. Elle avait quelque chose. Elle avait vraiment un background, quoi. Vraiment...
l'aristocratie même
je pense que pour ça château, je sais pas si Chris tu serais d'accord ou pas, mais c'est ce qui a aussi participé à son succès. Je pense qu'une femme avait plus envie de jouer une nana qui avait du répondant, qui avait un peu une grande gueule, était capable de foutre une fessée à des mecs, mais enfin que simplement bastonner avec son
oui, c'est la réponse de Chris.
Non, c'est un faisceau de choses. De toute façon, tout ça c'est vrai, puisque le succès que ça a eu, pour moi c'est démesuré, hein. Je trouve que
entre guillemets, tu veux dire par rapport à la qualité du jeu?
Ouais.
Ah, le tout premier était quand même exceptionnel. Hein.
Non, c'était exceptionnel, mais pour des raisons...
La série a eu une aura qui l'a dépassé
Oui, enfin, je sais pas. Ça s'est vendu par wagon entier. Ouais. Je dis pas que les jeux étaient mauvais, mais attends, du 1 au 6, faut pas exagérer. Il n'y a pas eu une évolution fantastique.
Je suis d'accord, c'est sorti. Mais... Puis l'Ange des Ténèbres aurait dû y rester dans les ténèbres.
D'ailleurs, ça a été...
Julot.
Tomb Raider, c'est aussi l'un de ces jeux qui a fait que autour de nous, parmi les gens qui nous prenaient un peu pour des cons, etc., s'intéresser en fait au sujet des jeux vidéo, commencer à nous poser des questions, etc. Ça fait partie de ces jeux un peu charnières comme ça qui a fait que c'est devenu un loisir plus grand public.
Mais justement, j'aimerais interroger Caro justement là-dessus. Est-ce que tu as vu toi autour de toi des filles qui étaient un peu réfractaires ou qui ne connaissaient pas grand-chose aux jeux vidéo parce que on parlait de cette femme incroyable qui était dans les jeux partout, commençait à avoir un autre regard, alors pas forcément sur Tomb Raider, hein, mais peut-être sur d'autres jeux.
Parce qu'on rappelle qu'à l'époque, en 96, les femmes, c'était moins de 10% des joueuses. Et on va le voir dans quelques instants qu'aujourd'hui, c'est plus de 40%, donc quasiment la moitié.
Bah, pour être honnête, j'avais tendance plus à jouer avec des mecs qu'avec des nanas. En soi, quand j'avais envie de faire jouer des copines, c'était plus à Bubble Bubble ou à Puzzle Bubble, tu vois. Bah oui, au début, je dis ouais, leur montrer que c'était accessible à toutes. Elle dit, hey, vas-y, essaye, regarde le petit dino, il est trop mignon. Elle dit, ah oui, et tout ça. Et c'est, enfin, ce qui a peut-être élargi leur vision des copines de l'époque, c'est de dire, oui, bah voilà, le jeu vidéo n'est plus cantonné au geek lunetteux, boutonneux derrière, sa console ou son PC. Donc oui, ça, du coup, elles se sont dit, ah bah c'est peut-être aussi accessible pour nous. Mais voilà.
D'accord, donc ça n'a pas eu finalement, au niveau du grand public féminin...
C'est pas Lara Croft que je montrais quand j'avais envie de jouer avec des copines, hein, sincèrement.
Et d'accord, c'était arrivé, ouais. Non. Je voulais juste savoir en fait du coup si tu c'était quand même arrivé de la montrer même si c'était pas ce que tu faisais à la base.
Elle savait qui c'était. Ouais. Tu leur disais ouais Tomb Raider, Lara Croft, oui elle savait. Mais pour rendre accessible le jeu vidéo à mes copines et à mon entourage, c'était limite des
parties gameplay en fait.
Voilà, des parties game, des trucs courts ou c'était des jeux de baston, c'est des choses très courtes où il y a pas forcément un investissement hyper long au début parce que tout de suite dans ces cas-là elles s'en désintéressaient.
Caf, tu veux réagir?
Les filles à l'époque de Tomb Raider, en fait, je me rappelle, je l'avais montré, j'avais essayé justement de le montrer à des amis, et en fait, le jeu qui cartonnait à l'époque, c'était Bomberman. Tu vois, rien à voir. Bomberman, elle comprenait tout de suite, c'était drôle.
Ou Mario Kart.
Voilà, et Bubble, c'est un super exemple parce que, voilà, même ma femme, le seul truc dont elle se rappelle, c'est Bubble, Bubble, en fait. Donc, comme quoi, ça a marqué les petits dinos.
Chris, une autre réaction?
Oui, pour juste pour finir sur Tomb Raider, je voudrais juste dire que. Ce qui est pas mal maintenant, c'est qu'on arrive dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on a eu Lara Croft, on en parlait à cause du personnage. Mm-hmm. Maintenant, on parle des nouveaux épisodes parce que bah voilà, le gameplay est devenu de nouveau intéressant, etc. Donc, à mon avis, c'est une bonne chose, même si bon, forcément, là, on arrive au je sais plus 9e épisode ou 10e, enfin, ça commence à faire beaucoup. Donc, je sais pas comment ils vont vraiment réussir à se renouveler, mais en tout cas, Crystal a fait de vrais efforts. Au niveau du gameplay, c'est vraiment intéressant à jouer. Au niveau des, dans le dernier, il y a des niveaux qui sont fantastiques, je trouve, graphiquement. Donc, je trouve ça super intéressant.
Ah non, enfin, mais voilà. Le dernier est vraiment un très bon Tomb Raider.
C'est bien. On commence un petit peu à oublier Lara Croft et on s'intéresse un peu plus à Tomb Raider.
Mais justement, on pourrait presque, mais ça, c'est vraiment un autre podcast, un autre débat, mais se demander si même maintenant, la surmédiatisation de Lara Croft ne fait pas de l'ombre au Tomb Raider d'aujourd'hui. Hein. Mais ça, c'est encore un autre débat. Caro.
Pour rebondir, ce qui a aussi attiré l'entourage féminin, c'est souvent des nanas qui jouaient avec leurs mecs et c'est le RPG aussi qui leur a donné aussi envie du jeu vidéo parce que souvent, c'était des coachs. À leurs potes, donc genre à FF7, elles étaient à côté, elles regardaient, elles trouvaient les cinématiques, l'histoire fantastique. Et du coup, elles jouaient avec leurs mecs comme ça. Elles disaient, ouais, non, tu devrais prendre telle porte, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Elles devenaient un peu des coachs de joueurs.
Et on jouait en duo, mais c'est une personne avait la manette.
Seule personne avait la manette. Et avec le RPG, c'était possible.
Parce que c'est le narratif qui a plus
c'est
d'un...
C'est ça. Et du coup, elles participaient. Elles n'avaient pas la manette, comme tu disais, mais elles participaient activement au jeu avec leurs potes.
Donc finalement, les jeux d'avant avait un peu plus de force auprès des
femmes
chez les joueuses.
Là où il y avait vraiment
une
histoire, un design, quelque chose qui pouvait les faire rêver, quelque part.
Donc plus que le gameplay, en fait. Angel.
J'ai essayé de faire exactement la même chose avec Samantha Fox, Strip Poker, ça n'a jamais marché.
À la fois, on peut comprendre pourquoi. Avant de conclure sur cette partie, CAF a visiblement quelque chose...
Non, mais parce que justement, c'est un truc, je pensais qu'Angel allait parler de ça, en fait, c'est que sur les point and click, avec justement les Monkey Island et les Indiana Jones de l'époque, donc les vieux jeux d'aventure, moi je me suis retrouvé avec des filles, justement, qui me commençaient à me poser les premières questions de jeux vidéo, genre, comment tu passes ce truc-là et tout, où déjà j'essayais de comprendre de quoi on me parlait, parce que c'était une fille qui me parlait, tu vois, donc il fallait que je relativise tout de suite.
Et parce qu'au début, ils comprenaient pas les femmes.
C'est ça, en fait.
C'était un autre langage.
C'était un autre langage. J'ai dit, attends, t'es en train de jouer à Indiana Jones? Ouais, je me suis acheté un Amiga parce que j'y ai joué machin et tout. Et j'étais là, genre, ok. Et les point and click, parce que voilà, la narration, il y a une aventure, il y a une histoire, et il faut pas juste renvoyer une balle ou faire un truc, tu vois.
Ou sinon, c'était Caro. Très familial avec la Super NES. Donc, du coup, il y avait un côté famille, un côté on est tous ensemble. Et je pense que les nanas sont mises aussi à jouer aux jeux vidéo comme ça, à plusieurs, où on dit, voilà, où tout le monde pouvait y participer. C'est,
Après,
ça, c'est mon expérience. Et je pense que d'autres femmes ont connu le jeu vidéo totalement différemment.
On va revenir, Caro, t'inquiète pas, c'est vraiment dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on va pouvoir revenir là-dessus. Mais moi, j'avais quand même, juste avant de conclure et justement avant de passer à la place des joueuses dans le jeu vidéo aujourd'hui, parler de ma théorie, la théorie des A, comme je l'ai appelée. J'ai quand même fait un petit listing et j'ai été assez impressionné de remarquer à quel point, bah, finalement, très nombreuses, une majorité écrasante, quasiment la moitié des héroïnes de jeux vidéo, alors je vais pas tous vous les citer, mais enfin déjà une belle et une mauvaise, avaient des noms en A. Alors il y a Lara de Tomb Raider, il y a Joanna d'Ark, de Perfect Dark, il y a Aya Brea de Parasite Eve, il y a Anna Tsuvachel de Fear Effect, il y a Oulala de Space Channel 5, il y a Yorda de Ico, il y a Shenfa de Shenmue, il y a Tifa de Final Fantasy 7, il y a Terra de Final Fantasy 6, il y a Tina de Dead or Alive.
Putain,
et puis voilà, je pourrais continuer comme ça. En gros, quasiment la moitié des femmes, enfin des héroïnes de jeux vidéo, c'est en A. Qu'est-ce qu'il y a autour de cette lettre?
C'est la première de l'alphabet, c'est la plus facile, je sais pas.
La lettre de la jouissance. Ah,
ah, je ne chercherai plus aucune autre explication.
Voilà, on a
cette réponse.
Si vous êtes linguiste, pardon, et que vous avez une réponse, on s'en fout en fait. Voilà.
Ouais, franchement, celle, la réponse de Caro me va parfaitement. Je ne l'avais pas imaginé, mais elle est très très bien. C'est bon, je prends. Ok. Donc, on va pouvoir passer donc à la deuxième partie de ce podcast, qui concerne un peu plus justement la place aujourd'hui des femmes dans le jeu vidéo. On le voit que finalement, il y a encore quelques années, 10, pas plus, hein, les femmes, mine de rien, étaient quand même assez minoritaires. Je ne sais pas comment ça se passait à l'époque, mais tu devais trouver peu de joueuses avec toi. Tu nous le disais tout à l'heure, d'ailleurs, tu jouais plus avec des mecs, Caro.
Oui, mais ça dépend des moments de ma vie, désolé. Mm-hmm.
Mais vas-y, raconte.
À l'époque des Game & Watch, non. Il y avait filles et garçons autour de moi. J'ai joué surtout avec mon cousin. J'ai vu tout le monde y jouer, autant les filles, ceux qui avaient la possibilité d'avoir des Game & Watch, c'est sûr. Après, avec le Game Boy.
Alors, toi, tu dis le Game Boy.
Mais oui.
C'est impressionnant. On a trouvé la personne en France qui disait le Game Boy.
Bah, bel effort.
Pardon.
Mais tu respectes, tu es la seule qui dit
la vérité.
D'accord. Comme on dit le GameCube. Hein.
Exact. Et non, tu es la seule aussi.
Voilà, c'est ça.
Ok, très bien. Bon,
non, mais les filles sont très méticuleuses. Tu vois, ça rigole pas. C'est la différence avec nous, les mecs.
Donc, pour revenir au Game Boy, j'ai eu beaucoup de chance. À l'époque, c'était mon père, ma belle-mère et moi qui jouons avec le Game Boy. On en avait chacun un, donc c'était pour toute la famille. Donc, j'étais un peu privilégiée. J'ai été gâtée. Mm-hmm. Après, je veux dire, voilà. On peut pas prendre en tant que référence parce que je pense que, comme ce que j'avais déjà dit au dernier podcast, je crois que mon père
podcast
voulait
anniversaire.
C'est ça, mon père voulait un petit mec, donc c'est ce qui a fait que j'ai eu les Game & Watch, j'ai eu l'Amstrad, j'ai eu le Game Boy, donc je pense que il voulait me faire plaisir et dire allez vas-y, donc voilà. Mais c'est vrai que non, les filles jouaient pas énormément, et je pense que ça dépend des périodes. Au moment de la PlayStation, la première PlayStation, je pense qu'à partir de là, il y a eu plus
Tu vas nous en parler dans quelques instants, mais d'abord, on va situer un petit peu les bases de ce débat. Il y a à peu près 10 ans, c'était moins de 10% des joueurs qui étaient des joueuses. Et aujourd'hui, selon une étude récente, elle date de septembre 2008, de l'ESA, l'Entertainment Software Association, 40% des joueurs sont des femmes ou des filles, c'est quand même quasiment la parité. Et puis 60% des possesseurs de DS sont des joueuses. Donc ça veut dire que c'est quand même la première machine de l'histoire sur lequel il y a plus de joueuses que de joueurs, donc ça c'est quand même assez notable. Alors après, moi j'aurais une question quand même à poser, c'est autant il y a énormément, tu peux garder le micro Caro parce que ça va te concerner directement, autant il y a beaucoup de jeux qui sont clairement identifiés comme des jeux pour les mecs, autant très honnêtement je trouve qu'il y a peu de jeux pour les femmes, on va dire. Alors oui, il y a plein de jeux pour les filles, voire les fifis, les jeux Spice Girl à l'époque, les jeux Barbie, Alexandra Lederman, Dora l'Exploratrice dont nous parlait Julo il y a quelques podcasts.
Avec talent.
Mais voilà, c'est vraiment des jeux pour les petites filles, pour les enfants, pour les femmes. Tu trouves quoi, toi? À part les éternels SingStar et compagnie, on peut
Cooking
pas se limiter
Mama,
à ça.
Bien sûr.
Cooking Mama, c'est ça.
Ouais.
Debout dans la cuisine avec Cooking Mama.
Mais est-ce que c'est pas un peu réducteur, quand même?
Non, je trouve ça très sympa, Cooking Mama. Je suis une fille et j'ai joué à Cooking Mama et ça m'a fait plaisir. J'ai même joué avec un mec et il était aussi déliré que moi. Donc, après, oui, il y a moins de catégorisation, je vais y arriver, pour les filles, enfin pour les femmes. Donc du coup, je sais plus ce que je disais, j'ai perdu le fil.
Il y a moins de catégories pour les filles que pour les
les femmes. Pour les petites filles, oui, il y a plein de petites choses. Mm-hmm. C'est le terme petit. Et c'était quoi ta question?
C'était moins clair. Autant il y avait vraiment des jeux destinés aux garçons, autant pour les femmes, ça me paraissait beaucoup moins évident. À part des trucs très clichés.
Est-ce qu'il y a vraiment besoin, en fait ? C'est ça la question.
Oui, est-ce qu'il y a vraiment besoin ? En fait, si j'avais un coup de gueule à passer, ça serait là.
Tu peux y aller.
C'est dire que il faut arrêter de catégoriser les jeux femmes, hommes, comme dans tous les milieux, que ça soit dans tous les autres médias et tous les autres loisirs. Il faut arrêter que les hommes rendent la femme en tant qu'exception. Il faut arrêter. Je veux dire, en soi, c'est pas complètement hallucinant de voir une femme jouer aux jeux vidéo, ou une fille, ou une petite fille. Il faut arrêter les clichés.
Quel est ton jeu préféré, Caro ?
Le dernier, je suis en train de jouer à Big Bang Mini et j'adore. Ouais, ouais. J'adore ce jeu-là. Après, j'ai joué à plein de jeux, mais c'est sûr qu'il y a des jeux qui ne me touchent pas et qui ne m'intéressent pas. Je ne suis pas une grande fan forcément des FPS. Je préfère jouer à un RPG qu'un FPS, par exemple, si j'ai fait mon choix. Il faut arrêter de parler d'exception féminine dans le jeu vidéo. Il faut arrêter, c'est plus possible.
Tu comprends forcément que, par exemple, tu prends le cinéma, tu vas avoir plus de femmes qui vont aller voir les comédies romantiques et plus de mecs qui vont voir les films genre Transformers et compagnie. Tu vas avoir plus de femmes qui vont acheter les bouquins de Marc Lévy que de mecs. Bref, dans les autres médias, il y a quand même des
y a plus de
des
choix,
choses
plus
qui fonctionnent plus avec un sexe qu'avec l'autre. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas cette même...
Parce que là, en gros, globalement, on trouve que dans les jeux vidéo, il y a un peu essentiellement des jeux d'action ou des jeux pour les filles-filles, quoi.
Et puis ça existe quand même, quoi. Enfin, l'entraînement cérébral, c'est pas explicitement fait pour les filles, mais c'est un jeu qui plaira beaucoup plus au public féminin.
D'accord, mais est-ce que tu peux m'en citer 5?
Non mais je te dis pas qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas. Je te dis juste qu'il y a des jeux qui malgré eux, de toute façon, sont quand même beaucoup plus ciblés pour les filles, comme disait Raon, quoi.
Moi, de mon expérience, les filles et les femmes que j'ai eues autour de moi, c'est très souvent quand même les puzzle games. C'est très souvent les jeux d'aventure point and click, comme on disait tout à l'heure. Et globalement, les expériences dans lesquelles
soit il y a une histoire, soit le gameplay est très simple.
C'est voilà, soit il y a une histoire ou quelque chose qui fait que tu peux accrocher autrement que par l'agilité, le paddle en main. C'est souvent ça qui freine chez les femmes néophytes, c'est l'agilité, le fait qu'il faut arriver. Ce challenge un peu énervant pour les filles, en tout cas qui sont néophytes, je le répète.
Peut-être d'où le succès de la Wii aussi. Hein.
Et voilà, exactement.
On en reparlera tout à l'heure. Caf.
On va en parler à mon avis encore tout à l'heure, mais les MMO, typiquement, c'est une proportion de femmes dans les MMO qui est hallucinante.
Parce qu'elles peuvent communiquer, parce qu'elles peuvent faire plein de choses en dehors de juste combattre.
Mais ce qui est rigolo, c'est que souvent dans les statistiques, je vois que les femmes préfèrent dans les MMO l'aspect social, l'aspect collectionniste d'objets, de familier, etc. Moi, j'en connais qui sont ce qu'on appelle des raiders, donc qui font vraiment le jeu à haut niveau, qui raident plusieurs fois par semaine, etc. Et qui sont complètement l'égal des hommes. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est vrai que le MMO, pour moi, est un des rares types de jeux où il y a presque une parité.
J'ai pas une grande expérience du MMO, mais effectivement, à chaque fois que j'ai touché un MMO, j'étais halluciné.
C'est un truc de fou.
Je rencontrais que des filles.
C'est un truc fou.
C'était hallucinant.
Sur EverQuest 2, les blogueurs les plus influents sur EverQuest 2 sont des blogueuses, par exemple. Parce qu'en plus, il y a toute une dimension. Alors là, je voudrais pas tomber dans un sale cliché, mais il y a une dimension, ce qu'on appelle le housing. Tu as des maisons, tu peux les décorer, etc. Et alors là, au niveau des. Les femmes nous explosent.
À ce niveau-là, voilà, il y a un jeu dont on peut parler aussi, c'est les Sims.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est le jeu emblématique.
Parce que c'est
des
un
femmes.
Jeu de poupée, quoi.
Ou Animal Crossing.
Ou Animal Crossing, tout à fait.
Oh, mais aussi, le premier Animal Crossing, c'est surtout les gamers qui ont joué au début. Ils étaient pris de la collecte aiguë dans
Animal.
Qu'on
a fait la renommée, au début.
C'est ça, au début, c'était vraiment.
Ouais, mais justement là on retrouve le phénomène aussi du mec qui joue Animal Crossing et de la nana qui reste à côté et qui finalement a commencé à participer parce qu'elle trouvait ça mignon, parce qu'il y avait la maison à construire, il y avait le cadeau, les relations de voisinage, etc. et du coup elles se sont mis à jouer. Enfin, elles ont basculé. Enfin, moi j'en connais pas mal justement des cas de filles justement qui ont commencé par regarder leur mec jouer et qui sont passées de l'autre côté de la barrière.
Oui, je pense qu'elles ont besoin aussi d'être rassurées parce qu'on leur a tellement dit aussi que c'était difficile d'accès, qu'il fallait faire des super combos, il fallait faire A à Z de haut plus croix plus carré plus machin, que forcément oui, elles se sont dit oh là là, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué.
C'est précisément aussi encore une fois le succès de la Wii, il est basé aussi là-dessus. C'est justement la simplicité des commandes.
Voilà.
Est-ce que tu as joué pas mal aux Sims? Parce que ça, c'est, on est obligé de parler de ce titre. C'est quand même le jeu qui s'est vendu à plus de 100 millions d'exemplaires sur PC. Avec les versions consoles, ça explose encore plus. Et clairement, c'est l'un des titres sur lequel il y avait le plus de femmes, quoi.
J'y ai joué, pas sur PC, sur Xbox, ouais. Quand c'est sorti. Et en fait, quand j'ai compris que j'allais y passer trop de temps, j'ai arrêté.
Mm-hmm. Et est-ce qu'autour de toi, t'as des nanas qui jouaient aux Sims et tu leur demandais qu'est-ce qu'elles y retrouvaient? C'est ça qui m'intéresserait de savoir.
Bizarrement, j'ai plus de copines qui ont joué à WoW que aux Sims. Voilà.
Donc, je pense que c'est bizarre.
Oui, c'est bizarre, mais mon entourage est bizarre.
Je trouve pas ça bizarre.
Non, non. Et alors, même question, pourquoi est-ce qu'elles accrochent à WoW?
Ouais, qu'est-ce qu'elles apprécient dans World of Warcraft?
Bah, j'ai des stats, moi, là-dessus.
Ah.
Les enfants.
Voilà, justement, ça va être intéressant parce qu'on va se rendre compte un petit peu de l'équilibre entre les hommes et les femmes et surtout d'autres choses. Rappelle-toi ce qu'on t'a demandé tout à l'heure, Caro. On te demandait, dans World of Warcraft, ton personnage, c'était quoi? Tu créais un homme, ton avatar, ou une femme? Tu nous avais répondu une femme. Ça va être intéressant de voir un petit peu.
Ouais, on va revenir sur les proportions des choix de sexe sur les créations de personnages. Mais pour ce qui est des motivations dans le MMO, en particulier dans WoW, qui est quand même le MMO le plus joué à l'heure actuelle, donc qui est le mieux placé pour qu'on fasse des stats un peu pertinentes. Il y a un certain nombre de motivations, il y a la progression, la compétition, l'analyse, l'exploration, l'aspect social, le boulot en groupe, l'immersion, la customisation, etc. Et si globalement les stats sont un peu les mêmes entre les mecs et les femmes, il y a quand même des points particuliers qui ressortent vachement dans les sondages sur les motivations entre les hommes et les femmes. En l'occurrence, le progrès du personnage est cité majoritairement par les mecs, mm-hmm. moins par les femmes, mm-hmm. qui vont plus s'attarder peut-être sur des choses comme l'aspect social. Ça les intéresse plus et ça les motive plus à jouer à World of Warcraft pour l'aspect social, pour la customisation, c'est-à-dire la gueule de leur personnage, etc. Mm-hmm. Tu vas avoir plus de nanas qui vont se faire chier à dégoter des objets qui ne sont pas forcément utiles dans le jeu, mais qui leur permettent de faire le personnage qu'elles ont envie de faire, etc.
Et je vois Kaf en train de sourire, avec un sourire qui est en train de s'épanouir de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe, Kaf?
Non, mais justement, l'aspect social, socialisation des femmes, dans le truc, c'est une source d'emmerde dans les guildes, les femmes. C'est un truc extraordinaire. Je connais des guilds qui ont explosé à cause des femmes, justement. Parce que bon, faut pas être non plus débile. Hein. C'est, je veux dire, juste après Mythique, une des sources de rencontres femmes-hommes, c'est les MMO. Et il s'est passé des trucs. J'aurais des histoires à vous raconter avec des tromperies, des trucs extraordinaires.
Ah bah écoute, ça tombe bien, car nous allons
c'était
en parler
déjà
maintenant.
C'est le cas dans Phantasy Star.
Mais oui, non, mais ça a commencé dans DAOC.
Quand tu crées un personnage féminin, tout de suite, tous les mecs venaient te draguer, dire ah, mais voilà. T'es une femme.
Mais non, mais j'ai un exemple tout frais en tête parce que rien qu'hier, on a recruté un nouveau joueur dans notre guild, qui est donc un hunter, un chasseur, et au bout de 25 minutes dans l'application form, parce que attention, on a des CV, machin, tout ça pour faire rentrer dans la guild, voilà, et il n'y a pas marqué si t'es une fille ou un garçon, donc voilà, il y a toute description du personnage, machin, pourquoi tu joues, pourquoi tu veux nous rejoindre, et au bout de 20-25 minutes après l'inscription dans la guild, on comprend que c'est une vraie femme, et là c'est le drame. Et là, d'un coup,
pourquoi c'est le drame?
Parce qu'il y a plein de mecs qui n'avaient même pas écrit, qui en avaient rien à foutre, qu'il y a un nouveau hunter qui arrive dans la guilde et tout. Et d'un coup, c'est la polarité, c'est le centre d'intérêt. Et c'est pas la première, on en a plein des femmes dans la guilde, c'est ça qui est drôle. Mais voilà, c'est une nouvelle, c'est la chasse est ouverte. Et voilà, c'est le bordel, c'est instantanément.
Terrible. Alors justement, c'est intéressant d'avoir des chiffres sur alors, les déjà, avatars, voilà, un petit peu comment sont créés ce genre de les
dans
personnages
World of Warcraft,
virtuels.
Chers joueurs de World of Warcraft qui se posent cette question, quand vous rencontrez un personnage féminin, il y a une chance sur deux, grosso modo un peu moins, une chance sur deux pour que ce soit un mec. Voilà.
Ça peut être moi. Bonjour.
Ça peut être le
avec
Kaf.
Des poils.
Là, vous avez vraiment pas de bol.
Tu joues une femme, Kaf?
Bien sûr, que des nanas. Dans les MMO, que des nanas.
Je te regarderai plus jamais pareil.
J'ai un personnage masculin. J'ai une excuse, mais en or, en béton.
Ah bah vas-y, je l'écoute.
Mais quand tu joues pendant plus de 200 jours, 200 fois 24 heures, un personnage, quand tu le regardes courir dans la forêt. J'ai pas envie de voir un cul de mec. Excuse-moi.
Très bien. Oui, mais alors tu vois le truc, c'est que les femmes, c'est pas du tout le même point de vue.
Ben oui, non, mais voilà.
Parce que, donc on disait tout à l'heure, un personnage féminin sur deux est en moyenne un mec. Si on prend un échantillon de 1000 joueurs, un échantillon hypothétique de 1000 joueurs, 840 sont des hommes, 160 sont des femmes. Donc déjà, il n'y a pas tant de femmes que ça qui jouent au MMO.
On donne le chiffre, la proportion
sur 160 sur 1000.
160
attention,
sur 1000.
Dans WoW, c'est vachement plus élevé en fait. Faut le noter.
Ça c'est pour WoW ce que je dis.
Ah, parce que moi j'avais
fait c'est EverQuest 2 où il y a le plus de nanas, je crois.
Ouais, non, mais j'avais fait un truc où 40% étaient des femmes aux États-Unis, c'est pour ça.
Peut-être.
Mais là c'était au niveau mondial.
Ouais, peut-être. Il y a plein de Chinois.
En tous les cas, sur cet échantillon-là, sur les 840 hommes de cet échantillon, tu vas en avoir 193 qui joueraient éventuellement des personnages féminins et 647 qui joueront des personnages masculins. Mais pour les femmes, sur les 160, il n'y en a que 5 qui vont jouer des persos masculins. C'est-à-dire que, en d'autres termes, tu as environ un personnage masculin sur 1000 qui est joué par une femme. Et là, sinon, c'est que des mecs.
Et là, je me tourne vers Caro, parce que visiblement, tu fais donc clairement partie, tu es totalement représentatif des femmes joueuses, puisque toi, ton personnage est une femme, c'est car ça. Tu es une femme. C'est alors, ça. Pourquoi ça vous tente pas de créer un homme, alors que vous nous aimez quand même quelque part?
Oui, mais je pense qu'aussi, c'est un système d'identification. On aura plus de facilité à rentrer dans un personnage si, dans une femme, quand on est une femme et quand on joue une femme.
Oui.
Mais vous, ça va vous faire marrer de jouer une nana, en fait. Nous,
mais c'est les culs de mecs sont mal modélisés, c'est ça
c'est
le
non,
problème?
C'est pas ça. Mais c'est comme. Si on reprend à la genèse de tout ça, c'est le jeu de rôle papier. Mm-hmm. Quand tu vas demander à des femmes ce qu'elles vont créer en premier, c'est une femme. Avoir bien plus sûr. De facilité à créer un perso comme une femme, à parler, parce que comme dans les jeux de rôle papier, on parle, donc on va parler comme une femme. On va
dire difficile de faire aussi, le nain qui boit une petite binouze
auprès de l'auberge et qui va faire des blagues ou faire un troll. Enfin, ce genre de choses.
Enfin, mais alors c'est amusant parce que alors, tout à l'heure tu nous disais justement que Lara Croft, ouais bon c'est une femme, on s'en fout un peu. Alors c'est quand vous créez un personnage en fait, c'est pas la femme en tant que telle, c'est l'identification.
Moi, j'adore créer un perso, de passer du temps à la création d'un personnage, moi ça me fait totalement kiffer. Essayer de dire voilà comment je vais la mettre, comment elle va habiller, c'est savoir je vais créer mon propre background.
Tu veux dire que tu joues à la poupée Barbie?
C'est peut-être ça, c'est peut-être un peu réducteur, mais oui, c'est ça.
C'est un peu réducteur, mais mine de rien, il y a quand même un truc qui est en train de d'être ressenti. C'est que justement, c'est à partir du moment où on vous donne le personnage, ça vous intéresse pas plus que ça de jouer une femme. Par contre, si vous pouvez le créer et donc l'habiller, le personnaliser, et d'où quelque part, je suis en train de me dire, le succès aussi des Sims, qui justement n'est que ça, alors sans aventure, sans grande histoire, mais toute l'histoire se crée comme ça virtuellement. World of Warcraft, pareil, avec le côté socialisation en plus. D'ailleurs, on sait qu'il y a énormément de blogs, etc., qui sont tenus par des femmes. Hein. Vous aimez prendre la parole, et ça nous fait plaisir de vous la donner aujourd'hui, grâce à toi, Caro.
Mais oui, mais ça me fait plaisir de créer un perso et dans n'importe quel jeu, dans Animal Crossing, je vais prendre du temps à choisir le nom de ma ville, le nom de mon perso, d'aller dans la petite boutique. Enfin.
Donc les jeux qui sont un peu plus libres, un peu bac à sable, genre je pense par exemple à Little Big Planet, c'est des jeux visiblement qui devraient plaire, en tout cas fondamentalement plus aux femmes. En tout cas, vous touchez directement.
Oui, on fait du tuning féminin. Moi, j'aime bien ça.
Raon.
Il y a un autre point qui est vachement intéressant aussi chez les joueuses de MMO. C'est que globalement, et d'ailleurs, on le retrouve aussi sur les statistiques des joueuses de DS qui jouent à Brain Training, etc. La distribution des catégories d'âge est vachement linéaire sur les hommes. Il y en a à peu près autant dans chaque catégorie, quoi, autour d'une vingtaine de pourcents pour les 12-17, les 18-22, etc. Mais pour les femmes, elles sont en général plus âgées. C'est-à-dire, ouais, ça va être 23-28, 29-35 et au-delà. Donc, c'est plutôt vraiment des femmes plutôt que des filles qui jouent au MMO. Quoi.
Entre 18 et 22, les mecs, je vous le dis, c'est la dèche. Hein. c'est mal barré. Hein.
Bon, 18 et 22, c'est 24,2%.
Ont peut-être d'autres priorités.
Hein. Non, Star Academy, non, c'est 15,4.
Mais Nouvelle Star.
C'est 15,4, tu regardes pas la bonne courbe là.
Ah oui, c'est vrai.
enfin, moi aussi, à un moment donné, j'ai plus du tout joué aux jeux vidéo et en fait, je me suis remise à mes 20 ans. Hein.
Moi, ça m'étonne pas, mais il y a un vrai truc d'âge. Au niveau de WoW, tu vois, enfin, nous, les moyennes d'âge sont vraiment. On a soit des très jeunes parce qu'elles jouent en famille, c'est les seules. C'est déjà plus vieux. Ouais. Et après, c'est couple. Et là, celle qui est rentrée hier, elle a 38 ans.
Et puis, il faut faire aussi attention. Les femmes aussi qui se mettent aux jeux vidéo, c'est aussi par rapport à leurs enfants. Elles veulent s'intéresser aussi à ce que leurs enfants font.
On l'a vu dans une excellente émission, Zone Interdite, où le lien avait été recréé autour d'un FIFA avec l'enfant qui fumait beaucoup de joints.
Oui,
et
mais
sa mère
en dehors de ça, je pense que les mères ont envie de savoir à quoi jouent leurs enfants. Et je trouve ça, et du coup, elles s'y mettent et elles se disent, voilà, ma petite fille prend une DS, bah, et pourquoi je vais pas trouver un jeu aussi pour moi sur DS? Donc, nombre de femmes qui ont une DS dans leur sac à main, mais vous serez hallucinés. Quoi.
Ça marche pas tout le temps. Moi, ma mère m'a plié à Tetris, et après, elle a trouvé que c'était pas très intéressant. Mais cela dit, sur les DS, c'est clair.
Elles vont pas reproduire plusieurs fois. Enfin, c'est rare qu'une femme a complété un truc genre Tetris, etc., elles s'y remettent, alors que le mec va toujours essayer de s'améliorer, de faire des meilleurs temps, etc. Ça intéresse pas trop les nanas.
Certains mecs.
Ouais. Enfin, c'est un trait de caractère plus masculin.
Ma mère, qui jusqu'à preuve du contraire est une femme.
Tu sais,
beaucoup joué à Fruity Frank, elle m'a toujours explosé, elle en a jamais eu marre, je pense que ça fait 20 ans qu'elle y joue.
Mais c'est parce qu'elle en avait pas marre de t'exploser, ça n'a rien à voir avec le jeu.
Moi, je pensais que la mère de la Joconde, c'était David.
Et, et pareil avec Columns. Alors, Columns, elle le retourne dans tous les sens. Je peux t'assurer qu'elle y joue encore et ça la fatigue pas.
Caro, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, on le sait hein, quand même, il y a beaucoup de nanas qui ont un avis très péjoratif sur le jeu vidéo, que c'est que ce truc de neuneux, machin,
de
etc.
De moins en moins quand même.
De moins en moins, mais ça existe encore très fortement. J'imagine que tu dois en rencontrer parmi tes amis, il ne doit pas avoir que des fanatiques de jeux vidéo.
C'est vrai.
Qu'est-ce que tu leur dis et surtout, qu'est-ce qu'elles te disent et comment toi, tu essaies peut-être de les convaincre ou de leur montrer que c'est peut-être un peu différent que ce qu'elles pensent?
C'est hyper cliché, mais c'est là oui. Moi, je vois ma coloc. Je l'ai intéressée aux jeux vidéo grâce à la Wii, en fait. Et je l'ai mise devant Wii Sport. Après, je lui ai sorti Wii Fit.
Le combo gagnant. Mais,
c'est ça. Mais du coup, ça l'a fait marrer de jouer aussi. Elle adore les jeux de ski. Et je pense que c'est aussi une question de génération. Parce qu'elle jouait en arcade sur les trucs de ski. Parce que ça a toujours été son gros trip. Et là, je lui ai remis. Elle était hyper contente. Et elle s'est dit, ah là là, moi qui ai eu des problèmes de dyslexie. Alors, elle me dit, ah, c'est bien. J'arrive à coordonner mes pas et tout ça. Elle était hyper contente. Et elle s'est dit, voilà. Après, je sais qu'elle jouera jamais à un jeu.
C'est ce que j'allais dire, une fois initiée, est-ce qu'elle joue à autre chose?
Elle va pas vraiment.
C'est ce qu'on se dit de ses parts avec la Wii, la DS, etc. Mais...
il va falloir que je lui relance. Je lui dis, voilà, ah tiens, regarde, il y a ça.
Mais elle va pas s'y intéresser
dans le deuxième.
Non, je pense pas. Voilà. Non. Et je pense aussi que c'est une question de génération et de savoir quand est-ce qu'on a eu le jeu vidéo entre les mains. C'est pour ça que je suis pas forcément hyper représentative. Je suis pas forcément hyper représentative de toutes les femmes.
Toi, tu l'as eu assez jeune.
Voilà, j'ai eu accès aux jeux vidéo beaucoup plus jeune et j'étais entourée de passionnés de jeux vidéo qui m'ont fait découvrir le jeu d'une toute autre sphère. Maintenant, c'est vrai, quand on va dans une soirée...
ça marche pas à tous les coups. Hein. Moi, ma sœur, ma petite sœur, j'ai toujours essayé de la faire jouer aux jeux vidéo.
Mais qu'avec Shenmue, Julo. Qu'avec Shenmue.
Hein, quand ils ont...
elle en peut plus.
Quand ils ont sorti la petite PS1 trop mignonne, etc. Je l'avais acheté une PS1. J'avais acheté des Game Boy, des machins et tout ça. Ça l'a toujours amusé un petit moment, tu vois, mais elle est jamais allée plus loin. Bon, sauf avec la DS, où elle a un peu plus pris, évidemment, avec les leçons de cuisine, les machins, enfin, tous les trucs comme ça. Ouais. Quoique, elle a acheté une R4 pour mettre...
Pardon. Oh mon Dieu. Ah non, ça c'est
enfin bref,
mal,
ça c'est pas
mal.
Bien. Mais du coup, de toute façon, on l'utilise même plus, quoi, je crois. Enfin bref, ça prend pas chez toutes les filles, quand même.
Bah, mes petites soeurs, j'ai réussi à les convertir, par exemple.
Avec la
R4 Non, la N64. Avec la N64, elles adoraient tout ce qui était Nintendo. Alors, elles étaient à fond Nintendo. Je suis désolée, il n'y avait d'autre idée. Mario Kart, après, il y a eu même les Pokémon. Elles adoraient les Pokémon et elles ont quand même 5 ans de différence. Les deux ont suivi, quoi. Donc, elles ont adoré. Bon, après, elles ont voulu la Wii, elles ont eu la Wii.
Bon, maintenant, elles ont quel âge?
Alors, la plus grande a 20... J'ai quel âge? Ah oui, 21. Et
c'est ça, les filles, c'est mignon.
Voilà, et la plus petite, elle a 15-16 ans. Voilà.
D'accord.
Faites passer vos offres sur le forum.
On se chargera de relayer. Mais intéressant parce que moi c'est mes deux petites sœurs qui se sont mises à la DS là, à Noël, parce qu'elles en ont... visiblement elles l'ont voulu, quoi. Elles m'ont demandé à Noël, qu'est-ce que vous voulez? Ah bah une DS. Et moi j'aurais fait découvrir Professeur Layton, Zelda, Phantom Hourglass, et depuis effectivement quand je repasse les voir, bah elles ont adoré.
Elles jouent encore.
Ah ouais, clairement, ouais.
C'était Noël dernier en même temps, ça, tu verras.
Ah bah c'était là. Non mais elles me redemandent des nouveaux jeux, elles me demandent il y a quoi qui sort. Je leur ai montré le trailer du nouveau Zelda, elles ont kiffé. J'ai
l'air d'aller lire Game
et même
Up.
J'ai envie, bah, c'est ce qu'elles font, elles écoutent tous les podcasts, d'ailleurs je leur fais un petit coucou.
Ah bah bonjour.
Voilà. Mais ouais, et
bonjour les Golumettes. Comme on les appelait à l'époque.
Et même.
Oh non,
non.
Vous les appelez aussi autrement.
Et même justement, c'est amusant de voir qu'elles ont quelque part des réflexes de gamer, parce que quand elles ont vu le nouveau Zelda Spirit Tracks, elles ont fait. Ça a l'air sympa, mais est-ce que ça va être sympa d'être sur un train? Et j'ai fait ah, pas mal, c'est bien mes sœurs, c'est bien. C'est bien, des vraies bonnes réflexions de gamer.
Il transpire la fierté.
Je suis fier de mes sœurs. Donc en fait, effectivement, c'est intéressant, et tu le disais à juste titre, là, oui, et Julo le disait aussi, en cassant un peu la problématique de la dextérité, d'avoir 56 touches à appuyer, doit faciliter les choses. Mais moi, ma question, c'est est-ce qu'elles ont l'impression de jouer à des jeux vidéo?
Oui, vraiment.
Ah ouais?
Ah oui, elles sont persuadées.
Elles se considèrent comme des joueuses?
Non, elles se diront qu'elles sont pas comme
joueuses. Elles sont pas comme les dingues.
C'est vrai qu'il y a quand même certains clichés qui restent et qui ont du mal à s'estomper, surtout enfin autour du jeu vidéo. Mais quand tu la mets dans un party games, elles sont à fond dedans. Certaines veulent bien faire des jeux de baston, donc ça sera peut-être plus Smash Bros. Hein. Elles vont être à fond dedans. Que ça soit bon, après oui, c'est sûr qu'il y a des jeux qui sont plus casual, genre SingStar.
SingStar Buzz aussi, ça marche très bien.
marche très bien. Ouais, Trivial Pursuit aussi, ça marche très bien. Enfin, quand elles connaissent déjà un peu l'environnement.
Et Flower.
Et moi, j'ai... c'est exactement. Alors, attends, parce que moi, j'allais dire et Braid.
Non, mais là, non.
Moi, j'ai fait jouer à Flower et ça a été un succès, mais incroyable.
Oui, mais il faut avoir une PS3.
Oui, bon, d'accord. Mais parce que moi, vraiment, de manière vécue, tu poses la manette dans les mains d'une fille avec Flower, mais je trouve que tu poses avec n'importe qui d'un autre côté avec Flower. Pour moi, je le maintiens un jeu universel.
Universel.
Et c'est une heure où tu peux partir parce que tu n'existes plus. Hein, et puis, tu entends des espèces de cris. Oh, putain, ça tue. C'est génial. Oh, c'est beau. Et puis, en fait, elles font pas grand chose et tout. Mais comme nous, quand on joue à Flower, on découvre à son rythme, etc.
À partir du moment où tu apprends que le jeu vidéo, c'est pas forcément boum boum, ou c'est je vais te défoncer la tronche ou ce genre de choses. Et qu'il y a d'autres choses en dehors de ça, elles découvrent vraiment un autre univers. Et dans ces cas-là, ouais, elles peuvent vraiment.
D'où le caractère d'éducation, entre guillemets, pédagogique des joueurs ou des joueuses qui aiment ce média, d'essayer de le montrer avec des jeux adaptés à la cible.
C'est ça. Et après, c'est vraiment aussi une question de génération. Parce qu'aujourd'hui, je suis sûre que les petites nénettes des cours d'école, elles sont imbattables avec les jeux vidéo.
Et ça fait partie intégrante de leurs intérêts.
Même aujourd'hui, les petites nettes de 18 ans, j'en suis sûre qu'il y en a de plus en plus qui sont... parce que quelque part, elles ont vraiment grandi avec l'avènement du jeu vidéo. Nous, on reste des exceptions parce que, voilà...
Vous êtes des pionnières, c'est pas des exceptions.
Voilà, on est peut-être des vieilles, des ancêtres, c'est ça.
Et bah justement, tu parles de pionnières, Raon, tu parles d'exceptions, Caro. C'est intéressant de voir un petit peu la place des femmes dans le média jeu vidéo en lui-même. Ça veut dire chez les développeurs, hein, chez ceux qui font les jeux, parce que mine de rien, c'est bien compliqué de demander s'il y avait que des hommes qui font des jeux, de leur dire faites des jeux pour les femmes, trouvez des machins. Il y a plein de réalisatrices de films, il y a plein de scénaristes de films ou de romans. Alors, on en a trouvé forcément quelques-unes, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça, mais quand même, ça arrive de plus en plus. Alors, bien évidemment, il y a Jade Raymond d'Ubisoft, on passera assez vite. Ouais, hein. Elle est belle, elle s'exprime plutôt bien, elle a un accent improbable. C'est la productrice de
premier
Assassin's Creed.
Mais j'en peux plus, à chaque fois qu'on entend Jade, la bave à lèvres, Jade.
Ah bah, il faut avouer qu'elle est pas mal quand même.
Ouais, mais tu vois, j'ai l'impression qu'Ubisoft s'en est servi comme argument de marketing. Quoi.
Bien sûr.
Ils l'ont poussé, ils l'ont mis en avant. Quoi, tu vois,
ils auraient eu tort de pas le faire, vu le résultat.
Tu sais pourquoi ils l'ont utilisé? Parce que j'ai un peu discuté autour de ça.
Ah, Caro, ça balance, les potins. Les potins, c'est la spécialité des filles, ça y est, c'est bon.
C'est que Jade était le meilleur rempart pour ne prendre aucune information. Donc, tu avais un journaliste qui se pantait devant Jade, déjà, qui faisait Ah, t'es trop belle, qui posait des questions un peu gênantes. Forcément, le journaliste français va toujours foutre le pied dans le plat et toujours à chercher la petite bête.
Oh,
c'est bien connu. Sais. Si, on est réputé pour ça quand même. et forcément, Jade fait je peux rien dire. Alors là, tout de suite, le journaliste était Ah bon, d'accord, passons à notre question. Ça a marché du feu de Dieu.
Elle est forte, cette
Jade. Ouais, enfin, c'est quand même la version, ouais, c'est quand même la version officielle. Je pense que. Si elle si elle a eu 12 000 interviews dans la presse, tu vois, c'est parce que tu pouvais caser une photo de Jade Raymond, quoi.
Ah bah, oui, aussi, bah, l'un n'empêche pas l'autre.
Ça,
ouais, mais là ça n'a rien à voir. Là, c'est les journalistes, c'est pas Ubisoft. Hein. Excuse-moi, c'est tous les journalistes.
Ouais, mais d'accord,
tout le monde avait envie d'avoir une interview avec Jade Raymond.
Mais c'était quand même un très bon calcul de la part d'Ubisoft. Quoi,
est-ce qu'on peut leur en vouloir, franchement?
Ils n'ont même pas eu
la calcul. Mais est-ce que j'ai dit qu'il fallait leur en vouloir? Je leur ai juste dit qu'elle a servi d'argument marketing, c'est tout. Et jusqu'à preuve du contraire, j'ai raison.
Là où je suis pas d'accord, c'est que c'est pas Ubisoft. C'est que les médias eux-mêmes l'ont survendu parce qu'ils étaient d'audience, bien sûr.
Ils ont réclamé.
Mais bien sûr. C'est pas Ubi qui a fait le boulot.
Donc, autre femme après Jade Raymond.
Juste un truc, il faut savoir que c'est loin d'être la première productrice à succès chez Ubi.
Grave.
Et en fait, Ubi a été dans les premières boîtes à embaucher beaucoup de femmes au poste de producteur. Enfin, producteuse. Excusez-moi.
Producer.
Ça reste. Enfin ouais, bon. Il y a d'autres sociétés aussi avec des titres assez connus. Il y a eu Shadow of Memories, la producteur ou productrice, on ne sait pas. Junko Kawano, à l'époque de lancement de la PlayStation 2, elle avait été aussi responsable du design sur le Shukoden. Il y a aussi Madame Kojima, mais qui n'a aucun lien de parenté avec
Monsieur Kojima. C'est super drôle. Ultra talentueuse des Castlevania.
Exactement, toujours chez Konami. CAF.
Il y a Shivon Reddy qui a fait Little Big Planet, qui est producteur, qui est sur le projet depuis le début, en fait. Oui, elle est carrément plus que ça. Mais
comment tu expliques Shivon?
Alors, Shivon, attention, c'est rien à voir, c'est S-I-O-B-H-A-N, en fait. Ça se prononce Shivon parce qu'elle est dans un coin très reculé d'Angleterre.
Mais c'est si bon. Voilà.
Ok, tu sors avec la
vanne. Désolé.
Producer aussi pour sport aussi.
Oui,
exact. Mère par contre pour le nom.
Oui, là on
ça va être un peu plus compliqué. Chez 2K Games, sur la grosse licence BioShock, hein, qui a l'air d'être un jeu bien masculin, bah il y a beaucoup de femmes hein, qui ont œuvré dessus.
Productrice exécutrice, productrice aussi, enfin des postes assez clés, importants vraiment. Et vous les verrez dans les interviews. C'est pas des visages connus hein, pour autant. Enfin c'est pas des jades quoi. Mais elles ont des postes fondamentaux dans le développement de ce genre de licences qui sont des jeux majeurs pour le média.
Exactement. Chez Naughty Dog aussi, hein, grosse société. Naughty Dog, responsable des Jack and Dexter, responsable plus récemment des Uncharted. Beaucoup de femmes hein, qui travaillent aux sections de l'animation et puis Dieu sait que c'est important sur ces
jeux. Il me semble qu'on en voit d'ailleurs dans les making-of directement sur le jeu quand on les débloque avec les succès à l'ancienne. Et je crois qu'il y a pas mal de nanas qui sont en interview.
Je crois que la première nana qui a été vraiment très responsable de l'animation chez Naughty Dog, si je dis pas d'idiotie, ça a dû commencer à l'époque du troisième Crash Bandicoot. Donc ça remonte quand même à pas mal de temps maintenant. Et effectivement, c'est des femmes qui ont commencé à travailler dans l'animation, mais ailleurs que dans le jeu vidéo. Au départ, elles étaient plutôt dans l'animation au cinéma ou dans les spots télé ou dans des choses comme ça. Quoi. Elles sont venues au jeu vidéo après.
Caf, tu as d'autres personnes.
J'avais oublié Roberta Williams. Qui est quand même l'impératrice des femmes dans le jeu vidéo pendant des années, celle qui a fait tous les King Quest, qui a fait tous les jeux d'aventure chez Sierra pendant des années, qui est la fondatrice de Sierra d'ailleurs avec son mari, donc qui est la romancière derrière tous les scénarios super plan-plan de King Quest. Mais bon voilà, c'était une femme.
Non mais c'est ça, c'est le problème en fait fondamentalement du jeu vidéo, c'est qu'on connaît peu de visages hein, à part les éternels Kojima, Jed Raymond, Miyamoto, etc. Mais on se rend compte en fait que certes, ce n'est pas la majorité des développeurs qui sont des femmes, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais qu'il y en a il y en a vraiment, et deux, de plus en plus, et qu'elles occupent des postes importants. On le voyait, il y avait une étude récente en Angleterre qui montrait que les femmes étaient mieux payées d'ailleurs que les hommes dans les sociétés de jeux vidéo, parce que derrière, elles apportaient une expertise différente, un ressenti différent, que techniquement elles étaient très très douées, et qu'en plus, effectivement, en termes marketing, c'était toujours intéressant de pouvoir les mettre un petit peu en avant, parce que mine de rien, ça intéresse les gens. Donc,
Sinon, elles sont beaucoup au poste de relations presse ou marketing. Beaucoup.
Mais ça, c'est un peu aussi, quel que soit le secteur.
Ça marche aussi avec la pharmacie en fait. Hein. Non mais c'est vrai.
Ça marche d'autant mieux dans le jeu
vidéo.
C'est
du vécu, je te le dis. Mais c'est vrai qu'en développement, on en retrouve de plus en plus. Et je repensais à une nana qui avait disparu, mais on avait halluciné dans les années 80, fin 80, avec les jeux Magnetic Scroll, les jeux d'aventure avec des images en HD, de la mort et tout sur Amiga, etc. Et c'était une nana qui avait développé tous ces jeux-là et qui était la fondatrice de la boîte. Je me rappelle pas de son nom, mais elle avait disparu. Il y avait eu une GDC où ils voulaient parler de la femme dans les jeux vidéo et ils avaient fait une annonce pour essayer de la retrouver parce qu'il est elle a disparu du secteur en fait, mais voilà, c'était une des toutes premières. Elle, pour le coup, c'est une vraie pionnière.
Et puis pour conclure, Raon, une série qui te tient particulièrement à cœur, toute la série des Oddworlds. Il y avait Lord Manning, certes, mais à côté
Sherry McKenna,
voilà, qui était très importante alors qu'il mettait pas les mains dans le cambouis, hein, mais qui
non, effectivement, elle était plus en retrait par rapport à l'organe créatif de Oddworlds, c'était pas elle, mais les deux venaient aussi du cinéma. Ils ont travaillé notamment dans les effets spéciaux sur Alien par exemple.
Et puis ils fonctionnaient vraiment en synergie, en binôme.
Ouais.
Donc, autre
femme. On ne sait jamais d'ailleurs s'ils ont vraiment été ensemble ou pas à un moment. Enfin, c'est toujours une question qui est en suspens.
Alors là, quand on a des questions potin mondaines, on se tourne vers Caro, mais je ne sais pas.
Quoique maintenant, c'est pas la solution. Toi, tu avais un sujet de conversation avec Lord Lanning, en fait. Les marques de shampoing, tout ça.
Voilà, c'est ça. Oui. Il a coupé ses cheveux et depuis, nous ne sommes plus amis.
Extraordinaire. Allez, on va conclure ce podcast avec une question qui va s'adresser directement à toi, Caro, hein, puisqu'on l'a vu hein, chez les développeurs, il y a quelques femmes, et puis en tout cas, elles sont en train de prendre de l'importance.
Tu as parlé de l'après-jeu vidéo.
Exactement. Voilà, l'après-jeu vidéo en France. On va être clair là par contre, c'est compliqué pour les femmes. Hein. Il y en a très peu finalement. Quand on part en press tour, on est quand même globalement les trois quarts du temps à 100% au masculin. Et puis quelques rares exceptions, il y a une femme parfois. Vous nous manquez, on a envie que vous soyez plus nombreuses. Qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué de rentrer dans ce média? Il n'y a pas assez de nanas qui se passionnent suffisamment pour le jeu vidéo pour en faire leur métier? Qu'est-ce qui se passe?
Déjà, tout simplement, oui, tu as déjà donné un peu la réponse. Toutes les femmes ne s'intéressent pas forcément aux jeux vidéo, n'ont pas forcément envie de faire leur métier autour du jeu vidéo. Maintenant, ce n'est pas toujours évident de rentrer aussi dans le jeu vidéo. Ça devient de plus en plus sélectif. Avant, le jeu vidéo, c'était quand même un secteur de passionnés. Donc, on peut le voir avec tous les premiers magazines. C'était vraiment qui sortaient pas forcément d'école de journalisme et ce genre de choses. C'est des passionnés. Et c'est vrai qu'à l'époque, du coup, il n'y avait pas forcément beaucoup de femmes. Avec l'évolution des choses. Maintenant, on demande de plus en plus de femmes, mais pour le casual.
C'est ça qui est terrible. Enfin, terrible à la fois, oui et non, parce que comme ça, elles peuvent avoir leur place et leur voix, leur porte d'entrée. Mais maintenant, oui, c'est sûr que quand on va vouloir tester un jeu Nintendo ou un jeu casual, on va demander à une petite nénette qu'à un mec, parce que oh, de toute façon, ça c'est pas pour toi, tu vas rien comprendre. Donc voilà.
Alors je vais te demander un truc très compliqué, mais quelles sont les personnes que tu côtoies dans ce milieu, les autres journalistes féminins que tu apprécies, qui ont vraiment quelque chose à dire, une vraie plume, un vrai regard sur le jeu vidéo, et on peut les retrouver où ?
Alors bon, bah il y a l'incontournable Jia qui était sur Game One, forcément, fait partie des femmes un peu.
Qui est partie en Chine. Voilà. Hein.
Je crois, je vais peut-être écorcher son prénom, mais c'était Valérie Le Pourri, je crois.
Ouais.
C'est ça.
Nathalie
Porry, qui est quand même une des premières femmes très importantes dans le jeu vidéo à l'époque. Donc voilà. Moi, je côtoie qui ? Je côtoie une petite nénette qui s'appelle Faustine, hein, qui bosse beaucoup dans les jeux vidéo, mais côté sport, parce qu'elle bosse pour Eurosport et elle fait Gaming Sport. Donc,
elle fait combo, elle fait sport et jeux vidéo. Tu
c'est vois ça, c'est sa spécialité.
Elle est très sympa, parce que bientôt les consoles automobiles, ils le foutent.
Après, il y a Kim qui bosse beaucoup chez Yellow Media. Il y a Pia qui a bossé un temps chez Game One, qui bosse aussi sur Yellow Media. Je crois que c'est l'officiel Nintendo et Jeux Vidéo Magazine. Après, on a des femmes qui sont plus mères de famille, qui ont travaillé un temps comme Sandrine Camus avec Game On Girls. Maintenant, qui est peut-être plus un peu plus tournée vers le high-tech, mais qui quand même à une époque représentait la mère de famille du jeu vidéo. C'était quand même Sandrine Camus.
C'est la maman, oui.
C'était la maman. En dehors de ça, qui donc que non, il y en a pas mal sur, maintenant de plus en plus sur les sites internet. On en voit beaucoup plus. Regarde dans jeuxvideo.com.
On a un site internet, nous, qui s'appelle gameblog.fr.
Venez les filles.
Ouais, sur jeuxvideo.com, t'as une petite nanette qui fait de plus en plus maintenant les gaming live. Il y a ça. J'ai pu voir. Dans
Versus, c'est ça. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne l'entend pas.
D'accord.
C'est vrai. Bonjour Nora.
Bonjour Nora. Nous, on aimerait l'entendre, Nora. On aimerait bien beaucoup l'entendre plus. Mais bon, voilà.
Après, non, il n'y en a pas tant que ça. Après, ça va être peut-être des petites plumes qui ne vont pas être mises en avant forcément. Parce que ça reste un milieu très masculin. Et c'est vrai que même si je vais me faire taper dessus, le jeu vidéo reste quand même assez machiste. Et ce n'est pas forcément évident d'y faire sa place.
Moi, j'ai trouvé en fait des nids, avec des nids, mais vraiment des nids, avec effectivement les blogs. Alors, parce que c'est des nains qui ne sont pas du tout dans la profession, n'est pas de jeux vidéo, elles ne sont pas journalistes de jeux vidéo, elles sont passionnées. Parfois, elles sont journalistes, alors rien à voir, hein, de trucs complètement divers et variés. Et elles font des blogs de jeux vidéo, alors en plus en groupe, donc elles sont plusieurs. Et le nombre ne revient pas là, parce que je viens juste d'y penser. Mais effectivement, ça commence à se. Je l'avais déjà vu, le phénomène s'amorcer dans les MMO avec pas mal de filles qui donnent leur vie dans le MMO, mais qui maintenant commencent à filer leur avis sur les derniers jeux vidéo, les trucs comme ça, dans des blogs sans prétention, mais ça taille. Généralement, on prend cher. Mais pas toujours d'ailleurs. Mais,
Les journalistes masculins ?
Non, les hommes en général. Les hommes en général. Mais c'est vraiment pas mal. Et puis surtout, c'est écrit avec beaucoup d'humour et elles se prennent pas la tête parce que justement, c'est pas leur métier, quoi. Donc c'est leur blog, ils font ce qu'ils veulent. C'est vrai que ça change un peu au niveau du style, en tout cas.
Et puis alors, on aurait pu parler aussi de toutes ces équipes de filles à Counter-Strike qui sont exceptionnelles, qui parfois mettent la misère aux mecs
souvent
aussi.
Souvent même, avec des Suédoises.
Celles qui sont quand même très 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 connues.
Les seules, avec donc la blonde très très connue d'ailleurs.
C'est ça, et il y a une équipe française chez Ubisoft, mais je me souviens plus du nom.
Voilà, mais malheureusement, ça a été arrêté comme tentative. Hein.
Dans d'autres pays, elles existent encore. Ouais. Parce qu'elles sont localisées. Je ne sais plus s'il n'y a pas une équipe canadienne ou je ne sais plus non plus. C'est dingue, ça. C'est les trous de mémoire collectifs.
C'est
peut-être
aussi typiquement français parce qu'apparemment, dans les autres pays, il y a quand même beaucoup plus de journalistes jeux vidéo qu'en France.
Femmes, tu veux dire ?
Oui, femmes.
En Scandinavie surtout, je crois.
Voilà, mais dans d'autres pays d'Europe, en Allemagne par exemple, il y en a beaucoup plus. Aux États-Unis aussi, on les met plus. C'est celles qu'on met plus en avant.
C'est les Jessica Chobot et compagnie.
En plus, en Allemagne, elles sont souvent, et ça choque vachement, c'est que c'est des spécialistes PC en plus. Comme ils jouent énormément sur PC, mine de rien. Tu te retrouves à une conf sur un jeu un peu allemand machin avec plein de nanas et tu fais mais attends, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est vrai que c'est impressionnant. Et en France, on est relativement mal loti, faut le dire quoi.
Enfin,
quantitatif.
Par rapport aux jeux PC, au fait qu'il y ait MMO et au RPG traditionnel PC, il y en a plus en Allemagne.
Mais moi j'en ai fait, les nanas avec qui j'avais fait les hors-séries, etc. WoW par exemple, donc j'avais bossé, j'avais réuni une équipe pour des projets un petit peu tendus, et c'était que des filles. Comme quoi, Salut Mao. C'est ça. Mais qui avait fait bosser sa sœur en sous-main en plus. Donc tu vois, c'était une affaire de famille.
Moi, j'aurais une question par rapport à ça. Si aujourd'hui, vous deviez recruter une nana pour Gameblog, qu'est-ce que vous lui demanderiez exactement pour qu'elle puisse rentrer ?
D'être passionnée, de la passion. Savoir écrire.
Voilà, de la passion, une bonne plume, une vraie connaissance globale du média du jeu vidéo pour justement pouvoir ne pas être pris à défaut, pouvoir en parler le plus concrètement possible et avec de l'envie, quoi.
Concrètement, le même truc qu'un mec. Hein,
bah oui, mais non, mais voilà. Nous,
ouais,
on a
mais
pas
peut-être
de...
avec un point de vue qu'un mec ne serait peut-être pas.
Oui, non, mais
d'avoir.
Je parlais sur les skills de base.
Oui,
ça
oui,
reste
oui.
La même.
Sur ce qui est purement CVS-que, ouais.
Bon, blonde, forte poitrine aussi.
Du coup, moi, j'ai une question. En tant que femme, pourquoi vous pensez que les femmes ne sont pas suffisamment acceptées dans le milieu du jeu vidéo? En tant qu'homme, vous répondriez quoi?
Ah, mais... Dans le milieu du jeu vidéo en général ou dans notre milieu
du journaliste? En tout cas, oui, journaliste.
Moi, franchement, je pense que c'est pas qu'elles ne sont pas acceptées, c'est que je suis intimement persuadé que finalement, il y en a peu qui tentent leur chance.
Mais elles ont quoi être intimidées, en fait.
Ah, mais ça, non, mais ça, c'est possible. Ça, c'est très possible. Mais je pense justement que il faut avoir une forte personnalité. Mais je pense que pour les mecs, c'est de plus en plus le cas aussi. Parce que, de toute manière, on est dans une presse qui aujourd'hui a besoin de noms. Tu peux pas être juste une plume anonyme. En tout cas, c'est pas notre conviction à nous. Donc, il faut une femme avec une grosse personnalité et on le sait, hein, quand on travaille un peu dans ce média, c'est du jeu vidéo, mais c'est pas fun tout le temps, il y a beaucoup de boulot, etc. Et que du coup, il faut vraiment être animé par cette flamme. Et qu'aujourd'hui, les places sont très chères et que pour bien gagner sa vie dans le média du jeu vidéo, ouais, c'est pas si évident que ça va.
C'est ce que j'allais dire, c'est que même pour les mecs, c'est extrêmement compliqué de rentrer actuellement. Si, hein, pour tous les jeunes qui nous écoutent et machin, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur, même maintenant, qu'il y a quelques années.
Il y a infiniment plus de possibilités avec le net, les blogs, etc. Mais pour vraiment en vivre, voilà. C'est vraiment complexe.
Quoi. Exactement, exactement. Donc je pense que pour une femme, c'est encore plus dur, simplement parce qu'effectivement, économiquement parlant, c'est plus dur, point.
Donc il faut être une sacrée chieuse, en fait.
Non, alors si justement vous pourriez être talentueuse, sans être relou,
voilà, c'est ça.
Ça serait génial. Ce serait
le combo parfait. Un fort caractère, ça passe par être chieuse.
Mais d'ailleurs, aux États-Unis, il y a certaines nanas qui sont très mignonnes et qui bossent pour les game trailers et pour d'autres émissions, Spike, voilà, qui sont super mignonnes et qui font un buzz incroyable sur le net parce que c'est des vrais geeks pour de vrai, mais elles sont super cute et elles s'y connaissent super bien.
Y en a une
aux États-Unis, il y en a quelques-unes.
Il y en a une que je suis sur Twitter qui est, dont le nom évidemment va pas me revenir parce que c'est pas
c'est
drôle.
Pas Chobot.
Son nom
Jessica Chobot.
Ah ouais, non, mais genre... elle est vraiment tellement cute. et non,
mais... Ah là là, il dit ça avec les yeux de l'amour.
Non, mais en plus, elle s'y connaît tellement bien.
Oui, bien
enfin,
sûr.
Franchement, elle est imbattable, quoi. Elle joue bien, elle est mignonne, etc. Enfin bon, voilà.
C'est un peu votre fantasme, la nana.
C'est son fantasme.
Non, parce que moi, j'ai vraiment pas besoin d'une nana qui aime le jeu vidéo.
Écoute, j'ai vu tes yeux, là, il y a deux secondes.
Bah oui, c'est cool.
Jessica Chobot, on la verra en jeu.
Non, parce que je pense que aimer quelqu'un, c'est se nourrir de ses différences. Donc, j'aurais pas envie. J'aurais pas envie que une nana soit absolument fanatique de jeux vidéo. C'est jamais vraiment recherché.
Mais en tout cas, tu peux avoir des différences ailleurs. Aujourd'hui, les femmes, enfin, ou les filles, ça dépendra de leur âge, j'espère qu'elles vont ouvrir un peu plus leur tronche et qu'elles vont un peu plus s'exprimer. Parce que vraiment, je pense qu'elles ont leur place, je pense qu'elles ont des choses à dire, tout aussi intelligentes que les hommes, si ce n'est plus de temps à autre. Donc voilà, je modère mon propos.
Mais les gens se souviendront de ton coup de gueule du podcast anniversaire.
C'est ça. Donc du coup, et qu'elles doivent vraiment pas hésiter, qu'elles soient casual ou hardcore, on s'en fout. Je pense que voilà, on est une famille de passionnés. Et là, je vais faire mon Julien. On est une famille de passionnés, et je pense que n'importe qui peut jouer, peut en parler, à partir du moment comme tu dis, il est passionné. Donc
apparemment c'est pas si simple que ça.
C'est pas si simple, mais même dans les forums, faut qu'elle parle parce que
nous on en a quelques-unes, mention spéciale à Cocoïne par exemple.
Mais dès qu'elles s'expriment dans les forums, elles se prennent une ribambelle de mecs avec qui marchent sur leur langue, donc forcément.
Oui, mais elles sont pas obligées de dire moi je suis une gonzette, regardez, je vais parler.
Mais donc, moi Caro, je réitère ce que je t'avais dit au podcast anniversaire, c'est si tu connais des gens qui aujourd'hui aimeraient, enfin des filles qui auraient envie de travailler dans le jeu vidéo
gratuitement,
qui ont
c'est très important.
Eh ben pas forcément, j'ai envie de dire.
On paye en nature
mais
aussi.
En tout cas, voilà, qui regroupe ce qu'on a dit tout à l'heure, de la passion, de l'envie et bonne plume.
Pourquoi tu profites pas de ce podcast pour faire une annonce? Alors les filles,
mais écoute,
avec ta voix,
écoute,
ça marche.
Voilà, tu vas la faire. Parle à tes amis femmes.
Filles, c'est une fille qui vous parle. Attends, si tu es passionné de jeux vidéo, tu n'as pas forcément un 90, viens chez Gameblog, tu pourras venir chatter.
Tu pourras venir pour travailler avec.
Envoie un SMS au 42 862.
C'est ce que j'allais dire.
Je
vous dirai une pub de fin de soirée là.
Non mais en tout cas, non mais effectivement, t'as raison, Caro.
On peut lancer
effectivement appel à candidature. Vous êtes une femme sympa, cool, passionnée par le jeu vidéo, motivée avec une bonne plume. tu nous intéresses. C'est si ça. Tu es blonde à forte poitrine, encore plus. Voilà.
Non, ça c'est pour Angèle.
Envoyez, envoyez des textes.
Non, même pas.
Envoyez
pas,
des textes, etc. N'hésitez surtout pas. N'hésitez pas, voilà, si ça vous titille un petit peu. Eh bien, franchissez.
C'est surtout l'envie
le
d'en parler qui est importante. Voilà.
Exactement. Voilà, bah, c'est sur ces bonnes paroles. Et en tout cas, en te remerciant infiniment, Caro, d'avoir participé à ce podcast. Même si Angèle fait les grands gestes pour prendre le micro.
Oui, puisque c'était un podcast sur les femmes, autant dédier ce podcast à Macha Béranger.
Très bien.
Voilà.
C'est donc sur ces bonnes paroles.
Elle va beaucoup manquer, sa voix va beaucoup me manquer, je l'ai kiffé toute ma vie.
D'accord. que ce podcast s'achève donc. Hein, un podcast qui aurait été en compagnie de Jade, hein, de Beyond Good and Evil, Jen de Primal, Samus Sara de Metroid, Nariko d'Heavenly Sword, Jill Valentine, Kreller Redfield de Resident Evil, Kate Archer de No One Live Forever.
No One Lives Forever, ouais.
Et puis toutes celles qu'on a citées,
en anglais,
les Lara, les Johanna, les Aya, les Anna, les Oulala, les Yorda, les Tina, les Shenfa, les Tifa. Voilà, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Encore merci et j'ai envie de dire bisous, Caro. Bisous. À très bientôt pour un prochain LCI Game Club. Hein, ensemble, hein, on retrouve toute l'actu.
Favoritisme.
Exactement. à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Oh là là, on approche du podcast 100. Que va-t-il se passer? Le suspense est total.
Tout le monde se pose la question.
Oui, oui, nous aussi. Bisous.
Ciao, ciao.
Portez-vous bien et puis surtout, jouez bien. Ciao, ciao.
Bye.